Monsieur le conseiller communal, monsieur le délégué culturel de la ville de La Chaux-de-Fonds, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous Big Bounce. Big Bounce, c'est le nom de notre itinérance réflexive et créative, initiée au début des années 20, le temps file, au temps suspendu de la pandémie, enfin de l'épisode 1 de la pandémie, avec nos amis du Centre de culture ABC et du Théâtre populaire Roman. Je salue la présence de sa directrice Anne Bisson avec nous ce soir. Merci encore à ces deux partenaires pour cette aventure riche de résonances et d'étincelles joyeuses. Nous avions ouvert ce cycle avec une psychanalyste et philosophe politique, Cynthia Fleury. Nous poursuivons aujourd'hui avec une autre figure majeure de la psychanalyse, Roland Gori. Il me rejoindra juste après. Merci de votre présence, Roland, qui nous ravit et nous honore. Vous nous donnerez une conférence intitulée « La fabrique de nos servitudes dans nos sociétés de contrôle, comment s'en émanciper ?» Et demain soir, vous pourrez prolonger la réflexion en visionnant le fin et beau documentaire « Roland Gori, une époque sans esprit », un portrait hommage à notre invité. Ça va le son là ? Ça fait un peu pop. On a un nouveau système sonore, donc on teste un peu. Voilà. Alors, le réalisateur Xavier Gaillon sera aussi présent demain soir, donc à l'ABC, à l'issue de la projection, pour dialoguer avec Roland Gori. Karim Karkeni, là-haut présent, grandement marqué par la lecture de vos livres, Roland sera présent pour modérer cette rencontre. Je le remercie très sincèrement. Il allait vous chercher un peu en catastrophe, bloqué à Frasnes sous des trompes d'eau avec votre épouse. J'en profite pour aussi remercier Florence Lussu, là-haut aussi, qui a aussi, vous deux, vous avez rendu possible cette rencontre de ce soir et ce beau public. Vraiment toute ma gratitude. Avant d'en dire plus un mot sur notre prochain rendez-vous, jeudi 9 novembre, nous recevrons l'historienne Christelle Tarot. Elle a dirigé l'ouvrage pionnier « Féminicide, une histoire mondiale », un apport majeur pour cerner la matrice de ce phénomène tragique. Après une courte conférence, Christelle Tarot dialoguera avec Églantine Jamais, plus spécifiquement autour de la réalité régionale, car vous savez peut-être que des 10 dernières années, tous les homicides dans le canton de Neuchâtel étaient en réalité des fémicides, sauf un. Mesdames, messieurs, revenons à la soirée de ce soir. Je vous invite à me rejoindre. Avant de vous laisser la parole, monsieur Gori, me revient la tâche ardue de vous introduire à grands traits. Par le prisme psychanalytique, vous avez renouvelé la pensée politique par des optiques non consensuelles et en cela particulièrement éclairantes. Ainsi, au fil d'une trajectoire de pensée et de pratique unique, vous nous aidez à poser un diagnostic sur la crise structurelle profonde de nos sociétés et les différents symptômes qui lui sont associés, tels que par exemple la crise écologique. Roland Gori, vous êtes professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille et psychanalyste. Vous êtes le fondateur aussi du Centre interrégional de recherche en psychopathologie clinique. Je le dis car celui-ci a édité la revue clinique méditerranéenne, actuellement éditée par les éditions RS, dont Marie-Josée Del Volgo est la rédactrice en chef. Elle est présente dans la salle, c'est votre épouse. Merci et bravo pour tout ce que vous avez fait à travers cet organisme. La question de la parole et du langage et de leur dimension politique irrigue vos réflexions depuis votre thèse de psychologie et votre thèse d'État, respectivement en 1969 et 1976. Vous vous intéressiez alors plus spécifiquement aux conditions de validité des théories et des pratiques psychanalytiques. Vous êtes avec Stéphane Chedry à l'origine de la création en 2008 de l'appel des appels qui a eu un écho retentissant. Un appel pour que toutes celles et ceux qui œuvrent dans le domaine du soin, de la culture, de la justice, de l'enseignement, bref, dans tous ces domaines où les liens sont primordiaux, ou devraient être primordiaux, s'oppose aux logiques, voire aux dictats de normalisation et d'évaluation. Sous l'ère Sarkozy, il fleurissait. N'en parlons pas de maintenant. Hein. Mais vos livres engagent depuis longtemps, avec rigueur, profondeur, clarté et poésie, à démasquer ces logiques néolibérales dangereuses, ces dispositifs dont certains conduisent à une soumission sociale librement consentie, à une dangereuse anesthésie. Vos livres appellent à y résister. J'en citerai seulement quelques-uns, ils sont nombreux. Tout d'abord, le dernier en regard duquel vous intervenez aujourd'hui, La fabrique de nos servitudes, édité en 2022. Et si l'effondrement avait déjà eu lieu, 2020, la nudité du pouvoir, comprendre le moment Macron, en 2018, La fabrique des imposteurs, en 2013, qui a eu un très grand succès. Tous ces livres ont été édités par la maison d'édition Remarquable, Les liens qui libèrent. On en saura plus sur ces éditeurs demain avec le documentaire. Plus anciennement, citons un autre livre qui a marqué les esprits, écrit avec votre épouse Marie-Josée Del Folgo. La santé totalitaire, essai sur la médicalisation de nos existences. Cynthia Fleury nous alertait déjà. Ce dimanche 5 septembre 2020, la OTPR sur l'intensification des modalités de surveillance, sur le fait que peut-être bientôt, il ne sera plus possible de dire et d'agir sans risque et péril. Vous, Monsieur Gori, vous vous inquiétez même de savoir s'il est encore possible aujourd'hui de penser et même de créer. Et pourtant, là réside la possibilité de refonder notre monde. Car pour vous, et je vous cite, il n'y a pas d'acte de création qui ne soit quelque part sacrilège par rapport au pouvoir, c'est-à-dire par la mise en ordre et saine du monde. Merci pour tous vos apports. Merci d'avoir fait ce long trajet jusqu'ici. À vous la parole. Et mesdames, messieurs, je vous souhaite une très belle soirée.
Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et je ne sais pas si je serai à la hauteur des attentes que Marie-Léa a pu générer en vous après tout ce qu'elle nous a dit. Alors, merci à Marie-Léa Zouaren de cette invitation au Club 44 qui m'honore énormément. Merci à Florence Médès-Lussu qui, par le truchement de laquelle mon nom a circulé jusqu'au Club 44. Un grand merci à Karim qui nous a vraiment sorti d'une grande difficulté, d'une grande panique lorsque notre TGV n'avait plus de correspondance. Voilà. Donc, et merci à la Méridienne d'avoir apporté quelques ouvrages. Alors, ma conférence, mon exposé, est une incitation à nous demander comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous soyons devenus les esclaves des instruments que nous avons créés pour nous émanciper ? C'est-à-dire, comment se fait-il que nous soyons devenus les nouveaux prolétaires de ces technologies modernes, qui finalement nous tient le fil à la patte par le numérique ? Et c'est le point qui me paraît très important. Alors, ça revient aussi à se demander comment se fait-il, une fois encore, que dans l'histoire de l'humanité, une formidable découverte technique, porteuse d'émancipation, puisse se transformer en vecteur de contrôle, de normalisation, au service, bien sûr, des pouvoirs et au service des logiques de domination sociale. Alors, comment, si vous voulez, à partir de ce diagnostic clinique sur les processus d'aliénation et de chosification du vivant, comment est-ce que nous pourrions parvenir à nous soustraire à ces dispositifs de servitude et à faire acte de création en tirant les leçons, peut-être justement, de l'histoire de décolonisation et déprédation sociale. C'est un peu ce que je vais essayer de soutenir ce soir. Et finalement, je n'avais pas prévu de vous le lire, mais j'ai toujours besoin un peu de dériver, de digresser. Mais je pense que ce que je vous dis est à peu près contenu dans une citation de quelqu'un que je cite beaucoup et que j'aime profondément, qui est Édouard Glissant, poète et philosophe antillais. Glissant écrit « La mondialisation économique, elle nous fait entrer dans des régions où, premièrement, l'uniformisation des sensibilités est totale, où l'exploitation des peuples faibles est totale, où les guerres sont considérées comme des moyens légitimes de mener des opérations de police. Cela n'est pas une région du monde, c'est la continuation pure et simple des anciens phénomènes de colonisation et d'impérialisme. » Je voudrais essayer donc de soutenir, si vous voulez, ce propos, à partir de ma pratique singulière, bien sûr. Alors, pour baliser le champ de mon intervention, je commencerai par trois citations. C'est le rêve que je partage avec quelqu'un que j'aime beaucoup. On a parlé avec Karim, c'est Walter Benjamin. Walter Benjamin avait cette idée d'écrire un livre qui soit constitué uniquement de citations. J'ai essayé de convaincre mon ami et éditeur Henri Gruber. Il m'a dit qu'il n'en est pas question. Bon. Ce que je regrette beaucoup parce que je pense que à ce moment-là, la place singulière de l'auteur est justement dans la logique syntaxique des citations et, si vous voulez, de leur connexion. Donc, je commencerai par trois citations qui vont essayer de mettre en évidence les processus d'asservissement occulte et insidieux des citoyens que nous sommes, processus qui nous invitent à adhérer à des dispositifs de servitude, prescrivant finalement nos conduites et nous empêchant de penser, comme l'a dit Marie-Léa. Ces nouvelles fabriques de nos habitudes, je reviendrai sur ce mot, opèrent d'abord dans les milieux professionnels. Je pense que c'est quelque chose que j'ai un peu découvert et à quoi je suis très attaché. C'est dans les milieux professionnels que nous acquérons des normes, normes sociales bien sûr, mais normes symboliques, normes mentales, que nous intériorisons et que nous actualisons ensuite dans tous les autres domaines de notre vie, quel que soit le secteur amoureux, amical, culturel, sportif, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que nous avons mangé des normes sur les lieux professionnels et sans nous en apercevoir, nous sommes fuselés d'une certaine manière, par ces normes que nous actualisons ensuite dans tous les domaines. Alors, la première citation, elle est de Brecht, Bertolt Brecht. « Rien n'est pire que l'asservissement occulte, car si l'asservissement est manifeste, s'il est reconnu comme tel, il existe au moins une idée, un autre état, celui de la liberté. Mais si l'esclavage effectif est appelé par tous liberté, la liberté n'est même plus pensable. Non seulement l'asservissement devient un état naturel, mais la liberté devient un état non naturel. » On a à peu près la même chose dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie. La deuxième citation, elle est de Jacques Lacan. Jacques Lacan, lecteur de Marx, bon, donc ça vaut quand même le coup parce que c'est assez rare. Lacan écrit « Le prolétaire n'est pas seulement exploité, il est celui qui a été dépouillé de sa fonction de savoir. » Ma thèse, mon hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une prolétarisation généralisée de l'existence. C'est-à-dire que nos savoir-faire, nos savoir-être, nos savoirs sont confisqués par des modes d'emploi qui nous indiquent la manière dont nous devons nous comporter, dont nous devons penser. Du coup, je débouche sur la troisième citation qui est de Gilles Deleuze. À un premier sens, la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est quoi? Ce n'est pas très compliqué, tout le monde le sait. Une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont appelées à juste titre des communiqués. La com, c'est ça. Ce qui revient à dire que l'information est exactement le système du contrôle. Donc, si vous voulez, premier point rapide, c'est que dans notre modernité, dans notre modernité industrielle, le travail est par excellence le lieu d'acquisition de normes qui, une fois intériorisées, deviennent des catégories sociales et mentales. Donc, ce que Pierre Bourdieu appelle des habitus. L'habitus, on le sait, c'est un schème de pensée, c'est un schème de conduite, c'est une grammaire générative de modes d'être ou d'agir, de manière de se comporter. L'habitus, c'est la traduction latine d'un terme employé par Aristote, exis, pour désigner les facultés acquises. L'école et l'éducation, la famille, bien sûr, sont le lieu par excellence de fabrique des habitus. Mais dans notre modernité, là je me réfère à Hannah Arendt, bien sûr, dans notre modernité, les habitus s'acquièrent aussi, et principalement, dans notre vie professionnelle où nous exerçons nos métiers. Et donc la prolétarisation généralisée des métiers, je reviendrai aujourd'hui, conduit à cette prolétarisation généralisée de l'existence. Arendt avait montré comment dans nos sociétés modernes, le travail était devenu l'organisateur social cardinal. C'est un point important, d'où, disait-elle, la souffrance de travailleurs sans travail dans une société entièrement organisée par le travail. À partir de quoi, donc, les manières d'être et de faire acquises dans ces milieux professionnels deviennent la matrice de nos conduites, la matrice de nos mœurs et la matrice aussi de notre vie psychique. Donc, j'insiste lourdement pour que nous soyons déjà d'accord sur ce premier point. L'habitus est cette sorte de sens pratique qui permet aux individus de s'adapter aux situations de manière infraconsciente, quasi immédiate. Bourdieu nous dit comme un joueur de tennis qui, sur un court, se positionne automatiquement et se soumet aux règles du jeu sans avoir à y penser. Eh bien, les jeux sociaux sont des jeux qui se font oublier en tant que tels par le pouvoir, justement de ce que Bourdieu appelle l'illusio. Qu'est-ce que c'est l'illusio ? C'est un rapport quasi enchanté au jeu qui fait de l'acteur social un joueur qui, d'emblée, il est dans le coup. Et s'il est d'emblée dans le coup, cela provient justement des habitudes qu'il a pu acquérir au cours de son histoire, de ses expériences, au premier rang desquelles la famille, l'école, le travail. Ce sont ces habitudes, ces capacités à générer à l'infini des représentations du monde et de lui-même, ce que Foucault appelle le sujet éthique, si vous voulez, ce sont donc ces capacités de schéma d'action et de classification qui lui permettent de s'orienter dans le champ social sans même y penser. Cette capacité provient de l'intériorisation, de l'incorporation psychique de structures sociales établissant une complicité, qu'on peut appeler ontologique, du sujet avec les attentes collectives du champ dans lequel il se trouve. Cette manière pratique d'éprouver et d'exprimer les valeurs sociales et normatives acquises au cours du temps s'agrège en systèmes, systèmes individuels, systèmes groupaux, systèmes sociaux. Au cours de l'histoire d'un individu, d'un groupe ou d'une société, donc, se forment parfois des décalages, et c'est le point sur lequel je veux en venir et qui fait référence à ce que vous avez évoqué, Marilla, sur l'appel des appels. Eh bien, au cours de l'histoire d'un individu, parfois, il y a des décalages, des contradictions. Pourquoi ? Parce que les habitudes sont contrariées. On passe, par exemple, d'habitudes de service public, d'habitudes de mission, à des habitudes en termes d'entreprise. C'est ce que j'ai vu, par exemple, lors du procès Orange en France, c'est-à-dire la transformation de France Télécom en Orange, ou, si vous voulez, ce que l'on a demandé aux employés d'Orange qui a abouti à 22 000 départs, qui a abouti à un procès, à des suicides, etc. Ce qu'on a demandé, c'était d'acquérir de nouveaux habitudes. Non pas des habitudes de service, mais des habitudes de concurrence, des habitudes de palmarès, des habitudes, si vous voulez, en jeu dans le monde d'entreprise. Et là, ces habitudes clivées, ces habitudes déchirées produisent une souffrance énorme. On en connaît une relativement simple, par exemple, dont parle Bourdieu. C'est à partir, par exemple, de l'habitude clivée des travailleurs immigrés qui sont pris, déchirés, entre la culture traditionnelle de leur pays d'origine, si vous voulez, et puis les exigences, par exemple, de la production capitaliste imposée par le colonialisme. Un autre exemple d'habitus déchiré, c'est le roman Don Quichotte, luttant contre les moulins à vent. C'est l'exemple romanesque d'un habitus clivé, en détresse, au moment où la culture, la société, renonce aux valeurs et aux idéaux de chevalerie. Donc c'est aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines que je connais bien, c'est-à-dire celui du soin, celui de la recherche, celui de l'enseignement, celui de l'information, celui de la culture, nous avons des souffrances individuelles et collectives produites par justement ces habitudes clivées, ces habitudes déchiré. L'habitus livé est à l'œuvre dans les moments de changement qui contraignent à adopter de nouvelles conduites, de nouvelles valeurs. C'est exactement ce que j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours des débats et des témoignages organisés par l'appel des appels, par les professionnels. Ce dont ils témoignaient, c'est que, si vous voulez, ils ne se trouvaient plus dans le coup parce qu'on leur demandait d'adhérer à des manières de penser, à des manières d'agir, à des manières d'évaluer qui n'étaient pas du tout celles qu'ils avaient pu acquérir et dont ils ne voyaient pas, souvent de manière tout à fait pertinente, ils ne voyaient pas l'intérêt d'en changer. Ce clivage des habitus s'est produit dans le monde des métiers de l'éducation, du soin, de l'information, de la recherche, de la justice, du travail social, lorsque les professionnels ont dû renoncer à leur mission traditionnelle pour se métamorphoser en micro-entreprises libérales, autogérées, ouvertes à la concurrence et à la compétition sur le marché des jouissances existentielles. Là, ils ont réagi. C'est très simple, vous savez, je peux vous donner des exemples très simples. Lorsque, par exemple, un journaliste est un journaliste d'enquête de terrain, par exemple, n'est-ce pas, et il devait faire son boulot, et qu'à un moment donné, il produit des articles, ou il produit une émission de radio ou une émission de télé, n'est-ce pas, et où on lui dit ce que tu nous as apporté ne vaut rien parce que l'audimat n'est pas bon, ben ça veut dire, par exemple, que la télévision berlusconienne, elle était supérieure à la RAI. C'est-à-dire, plus vous faites dans le simple, plus vous faites dans le fun, plus, bon, etc. Or ça, il faut bien le voir, ce mode d'évaluation, on en parlera demain soir avec le film, parce qu'on y insiste beaucoup, dans le film sur cette question des nouvelles formes sociales de l'évaluation, elles aboutissent à un pilotage par les chiffres, c'est-à-dire à devoir atteindre des scores, si vous voulez, des indicateurs quantitatifs de performance qui, bien souvent, n'ont strictement rien à voir avec le métier et ont été fabriqués par des gens qui ignorent totalement le métier. En France, par exemple, l'hôpital, ça s'appelle la T2A, la tarification à l'activité. Vous voyez, la logique d'audimat pour l'information. Pour les enseignants au lycée, par exemple, ça va être le nombre de mentions bien ou très bien au baccalauréat, etc. Ça change complètement le métier. C'est qu'un enseignant qui a envie de transmettre quelque chose lors d'un savoir qui répond aux besoins et aux désirs des élèves pour les amener à une formation d'esprit critique, et du coup, on va le juger uniquement sur le nombre de mentions. Bien de mentions, très bien. Et ça va même déterminer des opportunismes. Par exemple, à partir du moment où on va changer, en France, je ne sais pas ici en Suisse, mais on va changer, si vous voulez, pour le baccalauréat, là, une normalisation des notes au cours de l'année, et ben, les profs vont augmenter les notes de manière, si vous voulez, à répondre aux exigences, mais qui n'ont rien à voir avec le niveau des élèves. Et d'ailleurs, on sait bien, dans les recherches en sciences de l'éducation, on sait bien que les résultats aux tests ont toujours tendance à s'améliorer dans le temps, non pas parce que les étudiants ou les élèves, n'est-ce pas, ont davantage acquis de connaissances, mais parce qu'ils se sont davantage adaptés aux tests. Et si vous voulez, il faut bien voir que ce n'est pas simplement une péripétie, ça. C'est pas simplement une petite histoire. C'est extrêmement grave. Oui, bon, je vais y venir. Alors, dans les sociétés disciplinaires, les normes et les habitus sont acquis au travail et ils accompagnaient les disciplines éducatives, domestiques, religieuses et sociales. Tout au long du XXe siècle, le travail fut pourvoyeur de normes mises en œuvre dans tous les champs. Et jusqu'à une époque relativement récente, qui correspond en gros à l'introduction du nouveau management par le numérique et nouvelles formes d'évaluation par des indicateurs quantitatifs de performance, nous étions dans ce que Foucault appelait des sociétés disciplinaires. Sociétés disciplinaires, ce n'est pas compliqué. Au XIXe siècle, elles s'épanouissent. Ce sont des sociétés où on va, si vous voulez, enclore les individus dans des lieux fermés comme l'hôpital, comme la prison, comme l'école, comme la famille, pour les discipliner, pour leur apprendre la manière dont ils doivent poser leur corps, la manière dont ils doivent utiliser leur temps, la manière dont ils doivent penser, c'est-à-dire des lieux où ils vont acquérir des habitus. Et donc, si vous voulez, ça, c'était en gros, cette normalisation, elle s'est opérée jusqu'à il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire dans ce que Foucault nous a apporté, finalement, d'une certaine manière, sur la dizaine de bouquins que j'ai dû produire au Lien qui libère, les 9 portent sur l'analyse foucauldienne et le dernier porte sur Deleuze, parce qu'à un moment donné, il faut lâcher Foucault. Nous ne sommes plus dans ces sociétés disciplinaires. Nous n'avons plus besoin d'enfermer les citoyens pour les contrôler, parce qu'on les contrôle partout. Alors, j'y viens. Ces normes sociales tendaient en permanence à aligner les segments de vie des individus sur l'étalon de marchandises. C'est-à-dire, en gros, bon, on sait bien que Marcuse a apporté cela, mais aussi Max Weber et bien d'autres, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on va tremper tout ce que nous faisons, si vous voulez, dans le liquide monétaire, et obligatoirement, n'est-ce pas, sa valeur sera définie par l'étalon de la marchandise. Cette normalisation, elle prenait pour exigence donc de traduire tous les besoins des existants en langage capitaliste. Ivan Illich, vous le savez, a analysé les conséquences de cette industrialisation du vivant qui a redéfini tous les besoins humains en termes de marchandises à consommer et a fourni par des institutions et des professionnels qui devaient les produire en série en suivant des consignes d'experts. Et ça, ça changeait déjà les besoins, ça changeait les désirs, ça changeait les manières de vivre et de survivre. Le travail industriel, donc, ça nous le devons à Illich, devenait la source unique de tous les biens matériels et symboliques. Et finalement, il y avait un véritable fuselage de ces besoins, un véritable fuselage des désirs. Et ça en faisait des besoins transformés, des désirs transformés, comme on parle d'aliments transformés. Voyez, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce n'était pas seulement, voyez, en termes de biens matériels, mais c'était aussi en termes de spiritualité, en termes de manière de penser. Et j'ai trouvé dans la préface d'un ouvrage que j'aime beaucoup de Léo Leventhal qui s'appelle « Les prophètes du mensonge », j'ai trouvé quelques lignes produites par Max Horkheimer et Herbert Marcuse qui évoquent ce fuselage de la pensée elle-même par l'industrialisation du vivant. Ils écrivent « Aujourd'hui, dans le contexte d'une société fortement industrialisée, la production détermine largement la consommation, y compris dans le champ idéologique. Les comportements et les réactions sont souvent manufacturés. Les gens ne les choisissent pas librement, mais les acceptent sous la pression réelle ou imaginaire du pouvoir. » Donc, si vous voulez, c'est un point qui est déjà extrêmement important. C'est ce fuselage, n'est-ce pas, dont il était question jusqu'à maintenant. Vous voudrez bien m'excuser, mais je suis un peu fatigué, donc il est possible que je balbutie par moment. Ce qui a changé depuis Illich, Horkheimer et Marcuse, ce sont les sources et les modalités d'exercice du pouvoir. La prescription des conduites et des pensées du consommateur demeure fuselée par l'industrialisation du vivant, sa transformation en marchandises et en ce que Guy Debord appelait en spectacle. Mais la liberté d'obéir, comme dit mon ami Yvan Chapoutot, la liberté d'obéir change de nature et d'usage aujourd'hui. Le pouvoir s'est métamorphosé, il s'est densifié, il s'est diversifié. Il est devenu un système insidieux de contrôle et de normalisation totalitaire de toutes les conduites. Nous sommes dans un régime culturel totalitaire. Je dis bien culturel, je ne dis pas politique. Comme l'avait anticipé Félix Guattari, non seulement tous les territoires sociaux et psychiques se trouvent quadrillés et surveillés par le pouvoir technico-administratif, mais encore, cette police s'infiltre partout, je le cite, sous une forme moléculaire, dans l'école, dans la famille, dans l'inconscient. Les institutions traditionnelles ne suffisent plus à cette tâche. Les relations de pouvoir se miniaturisent à l'image des nouvelles technologies dont elles se servent pour assujettir les individus. Un processus de déterritorialisation des lieux de pouvoir affecte les êtres humains eux-mêmes qui apparaissent dans l'espace public moins comme des individus, que comme des ensembles de fonctions, comme des foyers d'information, comme des profils bio-algorithmiques. Donc nous nous dirigeons vers un régime normatif totalitaire, mutilant les sujets de leur part créatrice par une injonction constante à devoir s'adapter à ce qui leur est prescrit. S'adapter, c'est l'antithèse de créer. Je pense que Barbara Stiller a dû aussi vous en parler. Nous sommes donc là passés des sociétés disciplinaires aux sociétés de contrôle. Il n'est plus nécessaire d'enfermer les individus pour les discipliner. Les lieux de contrôle et de normalisation occupent tous les champs de l'existence sociale et psychique grâce à la fabrique de nouveaux dispositifs de servitude. Nous sommes entrés dans des sociétés d'information. Nous n'en finissons pas d'être informés. Nous sommes informés jusqu'à l'infobésité. Pour Gilles Deleuze, l'information est un ensemble de mots d'ordre, un communiqué qui nous dit ce que nous sommes tenus de croire ou ce que nous devons faire semblant de croire dit Deleuze dans sa conférence de 1987. C'est-à-dire que nous n'en finissons pas d'être contrôlés, influencés, manipulés. Les humains sont alignés sur des autoroutes de servitude. Nous n'en finissons pas d'être inclus dans des programmes qui fonctionnent à la manière des gens placés sur les autoroutes, je cite Deleuze, en faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que cela soit ça le but unique de l'autoroute, mais des gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est un point qui est extrêmement important et je crois que, d'une certaine façon, la pandémie de Covid, sur laquelle nous pourrions d'ailleurs parler tout à l'heure, si vous voulez, dans le débat, a révélé que, d'une certaine manière, le télétravail ne nécessite plus aujourd'hui des frais de loyer, de bureau ou de nécessité de transport, etc. Or, c'est un point important parce que, par exemple, notamment les jeunes, enfin ceux en tout cas que je fréquente, ils sont tout à fait ravis de prendre le petit déjeuner dans le lit en même temps qu'ils sont en télétravail. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que leur lit devient une annexe du bureau. Et de la même manière, si vous voulez, vous voyez bien qu'aujourd'hui, nous recevons des mails, nous recevons des SMS professionnels à toutes les heures du jour et de la nuit. Et que nous sommes tentés d'y répondre. Et là, quelque chose se transforme, vous voyez. Et ça se transforme au sens où nous acquérons d'une certaine manière des habitudes dans ces milieux professionnels que nous allons actualiser, par exemple, sur les sites de rencontres. Dans les sites de rencontres amoureuses, vous allez vous présenter sur les sites de rencontres amoureuses, n'est-ce pas, comme un entretien d'embauche, en faisant valoir, je dirais, votre profil fonctionnel. Alors, du plus loin que je me souvienne, jamais je n'aurais imaginé l'horizon vers lequel se dirigeait notre société. Une société de contrôle total des comportements, en même temps que d'une liberté quasi totale des mêmes comportements. Non, pourquoi ? Parce que ça n'est pas à proprement parler un contrôle des individus. L'individu n'existe plus. Ça, je vous en parlerai tout à l'heure, j'espère que j'aurai un peu de temps. L'individu n'existe plus dans nos sociétés. Non, à proprement parler, un contrôle total des individus, mais un contrôle total des informations qu'ils laissent et qu'ils reçoivent. C'est-à-dire, vous allez sur le net, vous ne payez pas, sauf que vous laissez des traces, vous laissez vos pas numériques qui sont stockés, gérés, traités et revendus. Et de la même manière, vous allez recevoir des informations. Nous sommes intéressés, parce que nous partons, pour ne rien vous cacher, en vacances à Naples prochainement. Et bien donc, nous allons regarder l'histoire un peu de Naples, nous allons regarder un petit peu la géographie, un certain nombre d'informations. Et nous recevons, de TripAdvisor et autres, plein de propositions de restaurants, d'hôtels, etc. Donc, vous voyez, c'est ce jeu-là qui est extrêmement important. Et il nous paraît tout à fait anodin. On n'a pas l'impression que de laisser des traces comme ça va donner la main au pouvoir sur nos vies. Et pourtant, d'une certaine manière, oui. Aujourd'hui, les informations tendent à devenir les véritables molécules de la vie sociale, les véritables sujets d'existence, les véritables cibles des pouvoirs. Seul importe les informations captées, confisquées, prélevées, traitées par les États, bien sûr, mais aussi... Bon, si on a le temps, je vous parlerai de la Chine comme nouvelle forme de dictature numérique, mais aussi par les GAFAM, par exemple, et aussi par tous les partenaires de la vie économique, sociale, politique, culturelle. Cette surveillance des informations sur lesquelles les pouvoirs prennent la main transforme nos subjectivités et les soumette à une violence matérielle et symbolique. Cette manière de conduire les conduites, c'est la définition que Foucault donne de la politique, une conduite des conduites, eh bien fait de nos sociétés actuelles des sociétés de contrôle au sein desquelles l'information devient un moyen de donner des ordres sans en avoir l'air. L'intelligence artificielle, donc Anguilhem disait qu'elle n'avait d'intelligence que le nom, est devenue le vecteur d'une gestion totalitaire des individus et des populations. Essayez de vous débrouiller à faire changer un billet de train ou de trouver en cas de retard, comme ça vous est arrivé, vous verrez combien vous vous trouvez pris dans un système dans lequel vous êtes totalement aliéné et vous ne pouvez pas vous y soustraire. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. La notion même de subjectivité, si centrale dans les sociétés disciplinaires, la psychologie et la psychiatrie sont nées du besoin social, épistémologique de ces sociétés disciplinaires et ont fait émerger la figure de l'individu, eh bien, tend à s'estomper dans les sociétés de contrôle. Les notions, je vous donnerai des exemples précis en psychiatrie, les notions d'information et de communication suffisent. La psychiatrie et la psychologie tendent à disparaître au profit de systèmes neurocognitifs s'exerçant à communiquer, à informer, à interagir quasi automatiquement et, bien sûr, en étant connectés aux machines algorithmiques dont, qui deviennent le modèle, justement, de ces systèmes neurocognitifs. Ce qui n'entre pas, ce qui est très important de le comprendre, enfin, ça, je pourrais vous donner des exemples très précis à l'université dans la formation des psychiatres et des psychologues, enfin, ce qui est très important, c'est de comprendre que ce qui n'entre pas, c'est de nouveau récit social qui érige la figure anthropologique d'un homme computationnel, c'est un traitement comptable de l'information, eh bien, n'existe pas. C'est dénié, c'est exclu, c'est excommunié. Et c'est de cette manière qu'on va recruter les enseignants-chercheurs de psychologie, de psychiatrie, enfin, dans la plupart des sciences sociales et humaines, n'est-ce pas ? En gros, s'ils ne sont pas en infinité élective, jusqu'à y compris dans les supports des revues dans lesquelles ils publient, eh bien, si vous voulez, ils sont écartés. Donc, il y a vraiment une sélection qui opère. Et donc, tout ce qui n'est pas, en gros, compatible avec cette figure anthropologique de l'homme computationnel est dénié, exclu, excommunié. Et n'a pas droit à la reconnaissance sociale d'une existence. Et donc là, on se trouve, et ça va être très facile pour vous de le comprendre, pour ceux qui ont une pratique, par exemple, de médecin, d'infirmier, d'enseignant, de journaliste, etc. Eh bien, ça, ça vient en opposition frontale avec la dimension artisanale de nos métiers. C'est-à-dire avec la dimension artisanale et artistique du métier. Pour un médecin, pour un infirmier, pour un psychologue, pour un journaliste, pour un enseignant, etc. Donc vous voyez, l'habitus livé dont je parlais tout à l'heure, il faut bien le voir, se situe dans cette articulation-là. Et en gros, comme vous le savez, pour installer cette nouvelle figure de l'homme computationnel, eh bien, on a installé de nouveaux experts, de nouveaux prêtres, si vous voulez, de l'expertise, si j'ose dire, qui passent par le truchement de cabinets d'audistes qui se sont infiltrés insidieusement dans tous les métiers et dans tous les rouages sociaux, jusqu'y compris, par exemple, comme vous le savez, dans la gestion de l'épidémie. Alors, cette bureaucratie, elle se présente comme une forme de dictature administrative et gestionnaire, et elle, qui avait été anticipée, mais là je n'ai pas le temps de vous en parler, qui avait été anticipée par exemple par Pasolini. Pasolini parlait de technofascisme, Illich parlait aussi de technofascisme. Je vais par contre vous donner une citation de quelqu'un que j'aime beaucoup, et je pense que mon plaisir est partagé avec nombre d'entre vous, c'est une citation de Ken Loach. Ken Loach, réalisateur de Génie, formule sobrement ce qui est en train de nous arriver. Il écrit « Avec le temps, ça a été de plus en plus contrôlé. Plus les années ont passé, plus le format de ce qui marchait en termes d'audience s'est développé et rigidifié. Tout s'est bureaucratisé, hiérarchisé. Et comme dans toute industrie, il parle du cinéma, hein, Karim, il parle du cinéma. Et comme dans toute industrie, la pression sur la production s'est fortement intensifiée. La tendance est à la réduction des équipes et à la multiplication des managers. Managers qui, pour justifier leur position, se doivent intervenir dans tous les domaines, du scénario au casting. Dans les années 60, ils ne vous disaient pas quels acteurs vous deviez engager. » Je crois qu'il faut bien prendre la mesure, vous voyez, de ce message de Ken Loach. Parce que ce qui apparaît comme valable pour l'industrie du cinéma, aujourd'hui, vous pouvez l'étendre, et si nous avions le temps, je pourrais le faire, et peut-être dans le débat, je le ferai, à tous les métiers, au niveau de l'école, de l'hôpital, de la recherche, du travail social, de la culture, de l'information. Partout, c'est comme ça que ça passe. C'est-à-dire, n'est-ce pas ? Et je pense même, pour tout vous dire, sans tomber dans, je dirais, une représentation paranoïaque du monde, n'est-ce pas, Madame Delvolgo ? Eh bien, je dirais notamment que je pense que, par exemple, lorsqu'on travaille à flux tendu, avec un manque de personnel évident, il faut savoir qu'un nombre considérable de postes de praticiens hospitaliers sont laissés vacants, de professeurs, d'instituteurs sont laissés vacants, etc. Quand on travaille à flux tendu, qu'on ne remplace pas ou bien qu'on ne recrute pas, je pense que ce n'est pas pour des raisons comptables. Je pense que ce n'est pas pour des raisons économiques. Je pense que c'est parce que, si vous voulez, ça nous prive d'un temps nécessaire pour pouvoir échanger, pour pouvoir se parler et pour pouvoir savoir si ce que nous faisons est bien en affinité et en cohérence avec les finalités des métiers qui ont été créés. Donc je pense, si vous voulez, que ça accroît la charge mentale et la charge sociale qui nous empêche, si vous voulez, de nous parler. Et nous parler est peut-être le premier acte de résistance sur lequel je reviendrai. Donc en gros, si on ne remplace pas les postes, si on laisse un travail dans des conditions déplorables, ce n'est pas pour gagner du fric, c'est pour nous faire obéir un peu plus. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, de penser et d'échanger. C'est ce point qui me paraît extrêmement important. Alors vous allez sans doute me dire que j'exagère. Bon, si j'avais un peu plus de temps, mais il manque toujours un peu de temps pour terminer mes conférences, eh bien je vous dirais que ce que nous avons connu, l'organisation scientifique du travail que nous avons connu avec Taylor, n'est-ce pas ? Ou si vous vous souvenez, il y a des experts qui observent le comportement des ouvriers, qui repèrent les segments opérationnels de, si vous voulez, de ces comportements pour savoir lesquels il faut choisir. Et ensuite, ça devient le mode d'emploi que l'on prescrit à l'ouvrier, lequel perd donc sa dimension œuvrière, sa dimension artisanale, n'est-ce pas ? Il l'abandonne au profit d'une prime de rendement établie par l'évaluation individuelle. Bon, maintenant, c'est plus à peine de donner une prime de rendement. Le fait de conserver son emploi est en soi une prime. Bon. Il faut lire la traduction française de Taylor parce que vous avez, n'est-ce pas, une préface dans laquelle, justement, il est dit que l'avantage aussi de cette manière d'évaluer, de travailler, c'est que les ouvriers ne ralentissent pas la cadence quand ils voient, en quelque sorte, que on pourrait se passer de certains d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité sociale qui se trouve brisée par l'organisation scientifique du travail. L'évaluation étant individuelle, alors on le fait dans les laboratoires de recherche. J'ai été 15 ans au Conseil national des universités. J'ai été vice-président et président de ma section. J'ai été 7 ans au ministère de la Recherche comme expert. Je peux vous dire que c'est pareil dans les universités. On met en concurrence non seulement les laboratoires, non seulement les services, mais les chercheurs entre eux. Et donc, si vous voulez, il faut bien voir que, par conséquent, dans ce mode d'organisation, il y a la volonté de briser une solidarité sociale spontanée qu'on pourrait appeler une empathie, pour aller très vite. C'est-à-dire, pour éviter que mes copains soient mis à la porte, je ralentis la cadence. Vous voyez, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et là, on voit le lien, parce que où est-ce que Taylor il est allé chercher son modèle ? C'est pas compliqué. Il est allé chercher son modèle, n'est-ce pas, dans les écrits qui rendaient compte de l'organisation de récolte de coton dans les plantations par les esclaves. Et là, j'en viens à ma proposition qui, je pense, va vous faire bondir, n'est-ce pas ? Mais je m'appuie quand même, n'est-ce pas ? Je m'appuie quand même sur quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est l'anthropologue David Graeber. David Graeber énonce clairement ce risque de voir transformer, je dirais, le professionnel à l'esclave, tout simplement parce que la frontière que nous aimons établir entre l'esclavage et le travail salarié est peut-être beaucoup plus poreuse qu'il n'y paraît. Il écrit. Il apparaît que les contrats de travail salarié se sont développés au sein même des institutions d'esclavage dans plusieurs lieux et à plusieurs époques, de la Grèce antique aux cités-états commerçants de la Malaisie, etc., dans l'océan Indien. Je crois qu'on peut soutenir d'un point de vue historique que le travail salarié, du moins si on le considère comme un arrangement contractuel, est né de l'esclavage. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez, à partir du moment où les managers, avec l'aide de l'ordinateur, et vous vous souvenez d'ailleurs que Deleuze disait dans ses conférences que l'ordinateur était l'ami du dictateur. Et il ne connaissait pas encore ce qui se passe en Chine depuis quelques années. À partir de ce moment-là, oui, il nous faut lâcher tout ce que Foucault nous a apporté du côté des sociétés disciplinaires et nous rapprocher des analyses de Deleuze sur les sociétés de contrôle. C'est un point important et c'est d'autant plus facile que d'une certaine manière, Foucault avait, lors de ses derniers cours au Collège de France, anticipé l'existence de sociétés post-disciplinaires. Alors, ces sociétés de contrôle, si nous voulons définir aujourd'hui ce que j'entends après Gilles Deleuze par société de contrôle, il faut nous reporter à la définition qu'il nous en donne. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui fonctionnent non plus par enfermement, mais par contrôle continu et communication instantanée. Bien sûr, on ne cesse de parler de prison, d'école, d'hôpital. Ces institutions sont en crise. Mais si elles sont en crise, écrit Deleuze, c'est précisément dans des combats d'arrière-garde. On essaie de nous faire croire à une réforme de l'école alors que c'est une liquidation. Je peux vous dire qu'en France, pour l'hôpital, et le docteur Delvolgo, médecin hospitalier, pour en vous en parler, il est évident que pour l'hôpital, il ne s'agit pas d'une réforme de l'hôpital, mais d'une liquidation de l'hôpital. Alors, si maintenant on veut se représenter plus concrètement ce dont il est question, il faut quitter Deleuze et aller dans des romans de science-fiction. Et puisque vous avez invité Alain Damasio, il se trouve que je cite, moi, abondamment Alain Damasio, et j'évoquerai juste son roman Les Furtifs. Dans le roman comme Les Furtifs, Damasio parle d'une intelligence artificielle nommée intelligence avenante qui écoute et guide les individus, capte en permanence leurs données, anticipe leurs besoins et associe le sécuritaire et le publicitaire. Cette intelligence artificielle, je cite, « logée comme une araignée de lumière au fond d'une base de données, pense à eux, amoureusement, à chaque instant. Elle inonde les individus dont le code définit une appartenance à une classe sociale, mais elle inonde aussi les individus de messages publicitaires, les invitant à consommer ce dont ils seraient censés avoir besoin à partir des données que cette intelligence recueille. » La ville, elle est libérée des problèmes politiques puisqu'elle est devenue une ville-entreprise, je le cite, soustraite à la gestion publique et intégralement détenue et gérée par une entreprise privée dont le maire est nommé à la majorité simple des parts. La ville est donc devenue une entreprise privée comme une autre. Des messages publicitaires flottent comme des nuages brumeux au-dessus de la ville et chaque foulée des passants déclenche des crépitements publicitaires qui proposent des produits et des services. Alors, toutes ces techniques de détection et de traçage n'alimentent pas que le grand marché urbain. C'est aussi la matrice de gestion, de régulation et de surveillance policière des habitants. Tout est devenu interface de capture et d'effection, de stimulus et de réponse quasi automatique. C'est un point très important. J'espère que j'ai encore un peu de temps. Oui, bon. N'est-ce pas ? Si j'ai évoqué rapidement la Chine tout à l'heure, la Chine, par exemple, elle fonctionne avec 200 millions de caméras de surveillance, n'est-ce pas, qui, par la reconnaissance faciale, etc., peuvent traquer les moindres anomalies de vos comportements. Et chaque Chinois reçoit un permis de 900 points, comme nous, on a un permis à points en France pour conduire, 900 points. Et en fonction des anomalies de comportement qui ont été capturées par ces 200 ou 300 millions de caméras de vidéosurveillance, on défalque des points. Et à partir d'un certain niveau, n'est-ce pas, le citoyen n'a plus le droit de voyager ou de réserver des hôtels à l'étranger. Il n'a plus le droit à certains établissements universitaires ou scolaires. Il n'a plus le droit à certains accès à des services hospitaliers, etc. Alors, on va se dire, ça, c'est la Chine. La Chine est devenue une dictature numérique. Elle n'a plus besoin de parler politique. Ce n'est pas la peine. Bon. Sauf que ce que la Chine nous montre, c'est ce qui est un arrière-boutique de notre démocratie libérale. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pourquoi est-ce que nous adhérons à ces fabriques de servitude ? Eh bien, parce que ces fabriques de servitude, elles sont anxiolytiques et antidépressives. Et ça, je crois que Damasio aussi l'évoque très bien dans son livre. Je cite, il parle des citoyens. « Ils acceptent, parce que nous rêvons tous d'un monde bienveillant, attentif à nous, un monde qui prenne soin de nos esprits, de nos corps stressés, qui nous protège et nous choie, nous aide et corrige nos erreurs, qui nous filtre l'environnement et ses dangers. Un monde qui s'efforce d'aménager un technococon pour notre bien-être. L'intelligence ambiance pourvoit à ça. Elle nous écoute et elle nous répond. Elle courbe cette boule autour de nos solitudes. Elle la tapisse d'objets et d'interfaces cool. Bien sûr, elle en profite pour nous espionner jusqu'au slip et pour nous manipuler jusqu'à la moelle. Alors, cet envahissement de nos réalités sociales et psychiques par l'intelligence artificielle est une véritable colonisation de nos esprits, de nos mœurs, qui, notamment à partir justement de la vie professionnelle, nous nous amène à une autre manière de vivre, une autre manière de penser, une autre manière de nous comporter, et peut-être que nous n'avons plus le temps de penser, de décider et de choisir. Et nous aboutissons, là je vais faire très vite, et nous aboutissons, si vous voulez, à une espèce d'atomisation de l'individu. C'est-à-dire que nous tombons dans un individualisme de masse. Cet individualisme de masse est ce que Hannah Arendt appelait la désolation, qui est différente de la solitude. La désolation, ce sont des individus déconnectés les uns des autres, et c'est vraiment l'humus, le ferment de tous les régimes totalitaires, quels qu'ils soient, que ce soit le régime fasciste, nazi ou stalinien. Donc si vous voulez, à partir du moment où l'individu est désolé comme ça, eh bien, à partir de ce moment-là, il devient la proie de sectes diverses et variées qui lui proposent une reconnaissance sociale, qui lui proposent, si vous voulez, des prothèses à une absence d'empathie et de vie sociale. Je crois que c'est ça qui est extrêmement important. Et alors, bien sûr, là aussi, on a consacré 2 numéros de la revue à cette question sur la métamorphose des subjectivités à partir des nouvelles technologies, mais regardez, par exemple, les nouvelles pathologies comme au Japon, en Europe aussi, aux États-Unis, qu'on appelle les hikikomori. Les hikikomori sont des jeunes adultes, souvent des adolescents, qui ne sortent plus non seulement de leur maison, non seulement de leur chambre, mais de leur écran d'ordinateur. Ils ne vivent qu'une vie numérique, une vie virtuelle. Et donc, si vous voulez, là encore, c'est pareil. La pathologie, elle est la loupe à partir de laquelle on peut essayer de comprendre et d'analyser ce qui arrive quelque part à tout un chacun. Alors, bien sûr, les nouvelles technologies ont permis cette mise à l'esclavage, en particulier par le truchement d'une métamorphose du travail et des métiers, mais il faut voir aussi qu'elle était déjà présente dans la modernité. Elle était présente dans la modernité parce que le propre de la modernité, notamment au XIXe siècle, le propre de la modernité, c'est de toujours chercher une solution technique aux problèmes psychologiques, sociaux, aujourd'hui écologiques. On attend de la technique qu'elle vienne solutionner les problèmes, si vous voulez, que les humains ont créés. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de crise écologique, je vais vous provoquer volontairement, je n'y crois pas. Pour moi, la crise écologique n'est que la part émergée d'une crise anthropologique plus profonde, parce que pour quelle raison voudriez-vous que les humains traitent mieux leur environnement qu'ils ne se traitent eux-mêmes et qu'ils ne traitent les autres? Donc la crise écologique, c'est le symptôme d'une crise anthropologique majeure. Alors, entendez bien que je ne suis pas technophobe. J'adore mon iPhone, j'adore mon iPad, j'adore mes ordinateurs, j'adore enfin tout ce qui est numérique, j'adore les caméras, enfin moi j'adore plein de trucs comme ça. Enfin, je pourrais vous en parler même si je suis très maladroit, j'adore toutes ces technologies. Le problème, il n'est pas là. Ce n'est pas les technologies, ce n'est pas endémique aux technologies, c'est la manière dont elles ont été utilisées et perverties socialement pour transformer des moyens d'émancipation en moyens de contrôle au motif qu'ils pourraient résoudre tous nos problèmes. Et non, ils ne peuvent pas résoudre tous nos problèmes. C'est ça la question. Alors quelqu'un qui avait très bien anticipé ça, c'est Guy Debord. Guy Debord, quand on lui demande justement d'imaginer l'avenir, et il parle de cette cybernétisation totalitaire de la société. Il écrit, je le cite, « Une cybernétisation totalitaire et hyper hiérarchisée, le contrôle perfectionné sur tous les aspects de la vie des gens, réduit à une passivité maximum dans la production automatisée comme dans une consommation entièrement orientée selon les mécanismes du spectacle. C'est d'ailleurs au début d'un tel processus de cybernétisation que nous semblons nous trouver. » Donc il avait tout à fait prophétisé, si vous voulez, ce qui nous arrive. Alors, vous voyez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que ce processus de cybernisation totalitaire de la société rencontre des manières de traiter la liberté individuelle dans la société le contrôle en inversant sa signification originaire. C'est-à-dire que nous sommes face à ce que j'appelle une liberté servile pour jouer sur l'oxymore, c'est-à-dire tout libre et rien n'est possible. Alors, la véritable liberté, Hannah Arendt nous dit, elle requiert la présence d'autrui. Or, aujourd'hui, ce n'est pas cette liberté-là, mais on en parlera demain peut-être, à parler du film, ce n'est pas cette liberté-là qui est promue. Aujourd'hui, c'est la liberté où l'individu est transformé en auto-entrepreneur de lui-même. Ce n'est pas du tout cette liberté, si vous voulez, dont, par exemple, Aristote avait fait une condition pour créer ce qu'il appelle la communauté des hommes libres. Nous en sommes loin aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Waze à tous les étages. C'est-à-dire, dans tous les domaines de notre vie, nous sommes guidés au nom du progrès, de l'efficacité, de la vitesse, c'est-à-dire ces grands mensonges de la modernité sur lesquels on pourra revenir. Et du coup, au nom de la vitesse, du progrès, si vous voulez, de l'efficacité, ce que nous perdons justement, c'est notre liberté. Les romans de science-fiction évoqués précédemment offrent à la loupe de la littérature cette cartographie des dispositifs de gouvernementaliser les pouvoirs dans nos sociétés de contrôle. Une aliénation maximale sous les apparences d'une liberté totale. Il suffit pour cela que des dispositifs installent partout leur emprise en séduisant ceux qui en sont l'objet. Alain Damasio, je le cite encore, « Ce ne sont plus les idéologies qui nous aliènent aujourd'hui, ce sont les stratégies d'impact. » Ce sont elles qui tracent les autoroutes neuronales par où circulent les consignes de vie. L'intimation à faire telle ou telle chose. Elles les creusent par bombardements intensifs, fréquences de frappe, répétitions, guerres sans pitié dont nos corps sont les fronts. Je pense que j'aurais pas pu écrire mieux que ça, ce que j'ai à vous dire, que ne l'a fait là Damasio dans ces quelques phrases. Alors, encore une fois, du coup, si je prends un exemple très concret, parce que j'ai encore pas mal de choses à vous dire, donc si je prends un exemple très concret, c'est par exemple celui de la psychiatrie, de la psychologie. Est-ce que les psys sont encore nécessaires dans notre société de contrôle? Je pense qu'ils sont nés avec les sociétés disciplinaires, et en particulier, on pourrait y revenir, ils sont nés, si vous voulez, avec la crise, je dirais, anthropologique des Lumières dans la deuxième moitié du 19e siècle. Siècle où le message de liberté, si vous voulez, 1784 de Kant, qu'est-ce que les Lumières, ne te fie qu'à ta raison critique et à la morale, sort de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même. Ce message de liberté, ce message d'une invitation à la liberté au sens vrai du terme, comme vous le savez, il va enflammer la première moitié du 19e siècle et d'une certaine manière, le printemps des peuples de 1830, si vous voulez, il est porté par ce message-là. Et puis, à la fin du 19e siècle, ce message, il vient se briser contre le mur des exigences normatives de la deuxième révolution industrielle. Et quand voulez-vous que l'ouvrier qui va se louer sur le marché du travail ou l'enfant de 8 ans qui descend au fond de la mine, on lui dise « ne te fie qu'à ta raison critique, à ta loi morale ». Donc ça devient un mensonge, ça devient une contradiction. Voyez. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et de là va naître notamment, justement, la sociologie avec Durkheim, la psychologie sociale avec Gabriel Dard, la psychanalyse avec Freud. Bon. Donc, vous voyez, en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nos découvertes scientifiques, elles ne sont pas des constructions sociales, ça, j'y crois pas, mais elles sont favorisées ou empêchées par les niches culturelles dans lesquelles et dont elles émergent. Et donc aujourd'hui, la question qui peut se poser pour la psychiatrie ou la psychologie, c'est est-ce qu'elles sont encore nécessaires, ces pratiques et ces savoirs, dans des sociétés qui peuvent tout à fait s'en passer. Nous savons que les manières de contrôler les populations et les individus travaillent les pratiques et les savoirs psychiatriques. Michel Foucault a eu le grand mérite, justement, de nous montrer comment, avant d'être une histoire des concepts et une histoire des pratiques, l'évolution de la psychiatrie, c'était des faits de civilisation, un fait de civilisation. Le savoir de la culture d'une société à une époque donnée, elle filtre, elle va favoriser ou elle va inhiber des découvertes. Alors bien sûr, on préférerait que ce soit les sciences, etc., les techniques qui modifient nos savoirs et nos pratiques, mais ça n'est pas vrai. C'est un grand mensonge. D'une certaine manière, si vous voulez, ce sont justement la niche sociale et écologique qui va permettre ou pas que ces pratiques puissent être mises en œuvre. C'est comme ça que la santé, par exemple, est devenue une santé totalitaire, c'est le titre de notre livre, une médicalisation généralisée de l'existence. C'est comme ça qu'on est passé, par exemple, des sociétés où il y avait un partage de la loi entre ce qui était interdit et puis ce qui n'est pas interdit et permis à, si vous voulez, ce qui est normal ou anormal, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, bien évidemment, on ne surveille pas de la même manière. Et même la psychanalyse, dans tout ce qu'elle a pu apporter, comme Foucault dit, comme première forme d'antipsychiatrie, elle est quand même née de l'invention des technologies positives du pouvoir, c'est-à-dire, d'une certaine manière, d'obliger. Elle est aussi une technique d'aveu. voyez. Et donc, comment vous dire, en gros, nos connaissances, nos pratiques, elles sont extrêmement dépendantes, non pas dans, structurellement au sens épistémologique, mais dans la possibilité de les exercer ou, si vous voulez, de les construire, justement, des filtres sociaux, des filtres culturels qui les permettent ou, au contraire, les empêchent. Alors, je crois que si l'individu, n'est-ce pas, dans les mécanismes de pouvoir, si l'individu a émergé comme objet des savoirs et des pratiques disciplinaires dont la psychiatrie et la psychologie faisaient partie, aujourd'hui, et en gros, qu'est-ce qu'on demandait, hein, c'est ce que dit encore Foucault, qu'est-ce qu'on demandait au psychiatre, mais on lui demandait comment l'individu ressemblait à son crime avant même de l'avoir commis. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est pas la même chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit disparaître, par exemple, les catégories traditionnelles de névrose, psychose, perversion. C'est un peu pour ça qu'on voit disparaître les grandes structures psychopathologiques. Et qu'est-ce que vous voyez à la place? Vous voyez une multitude de troubles du comportement. Et la notion même de trouble du comportement est vaseuse. Elle est trouble. Elle ne veut pas dire grand-chose. Et on va démultiplier comme ça les troubles du comportement, bien sûr, pour le plus grand bénéfice des industries pharmaceutiques et pour le plus grand bénéfice des surveillances sécuritaires des individus. Alors, aujourd'hui, la surveillance et le contrôle sont toujours davantage déterritorialisés. Ils envahissent tous les champs de l'existence des populations gérées par de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, il faut voir... Peut-être on en parlera dans le débat, mais le manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, les troubles du comportement, la troisième version, 1981, mise en place par Robert Spitzer et Leibovitz, eh bien, cette version qui va éliminer d'une certaine manière les connaissances tragiques de la phénoménologie, de la psychanalyse, etc., qu'est-ce qu'elles font ? Elles partent, si vous voulez, de cette hypothèse qu'il faut recueillir des informations de manière standardisée. Et donc, du coup, l'entretien du psychiatre ou du psychologue sera énormément normalisé, standardisé. Il sera plus libre, d'une certaine façon. Et les informations qu'il va recueillir, vous allez les passer dans l'ordinateur. Et l'ordinateur va vous donner le diagnostic. Et donc, on peut très bien imaginer, si vous voulez, dans un futur pas très lointain, que c'est l'ordinateur qui va assurer, n'est-ce pas, le diagnostic et qui va même prescrire les traitements, bien sûr chimiques et autres, mais pas seulement. Voyez, et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, l'ordinateur lui-même peut devenir aussi un conseiller thérapeutique avec lequel dialoguer. Donc, vous voyez, les choses, ce que j'essaie de vous montrer, parce que là, je suis obligé de passer sur plein de choses pour pouvoir un peu avancer. 10 minutes. Vous êtes dur avec moi, Maria. Eh bien, en gros, alors, ce qu'il faut voir également, n'est-ce pas, c'est que les anomalies de comportement qui se multiplient, par exemple, le trouble l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon, ça s'est multiplié, n'est-ce pas, de 300 ou 400% en termes de diagnostic. Vous avez 10 à 12 millions d'enfants américains qui prennent de la Ritaline tous les jours, etc. Et on n'arrête pas de surdiagnostiquer, n'est-ce pas, ce trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bon. Si vous voulez, on va par exemple considérer qu'il faut dépister de manière plus précoce, de manière plus féroce les jeunes bambins, etc. Bon, vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui, par exemple, en France, les parents d'enfants en maternelle reçoivent des publicités d'agences qui proposent d'entraîner leurs enfants au test de première année, enfin ils ont 6 ans, hein, de première année de cours préparatoire. Enfin, non, on est vraiment dans cet état d'esprit-là de dépister précocement et férocement. Mais ce qu'il faut voir, c'est que celui qui a inventé ce diagnostic, Léon Eisenberg, il déclare au Spielger en 2009, je ne pensais pas que ça marcherait autant, parce que mon diagnostic est une maladie fallacieuse, c'est une maladie inventée. Mais ça faisait tellement plaisir aux parents et aux laboratoires. Bon, et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est sérieux. Et donc, vous voyez, c'est comme ça. La version 5, en 2013, du DSM, a considéré qu'il y avait la syllogomanie. Ça n'a rien de scientifique. Hein. C'est les experts, ils votent. C'est un vote, parce que ce que travaille la psychiatrie aujourd'hui, c'est l'accord interjuge. Ce n'est pas du tout la validité scientifique. Et donc, on vote et on considère que la syllogomanie est un trouble du comportement. Vous savez ce que c'est, la syllogomanie? Eh bien, c'est la compulsion à accumuler des objets inutiles. Donc, je suis sylogomane. On se pose à aucun moment la question de savoir si, dans une société à l'obsolescence programmée et à la consommation accélérée, ce diagnostic n'a quand même pas quelque rapport avec les valeurs privilégiées d'une telle société. Donc, c'est comme ça, la science. Bon. Alors, pour faire vite et pour faire simple, puisque j'ai encore 10 minutes grâce à Marina, je voudrais juste... Donc, je vais tout faire. Je vais sauter tout ce qui est psychiatrie, on en reparlera. Je vais peut-être quand même vous donner un exemple avant de passer à la manière d'y résister. C'est ce que j'ai appelé la démocratie des nudges. Vous connaissez les nudges ? Bon. Eh bien, les nudges, c'est comme ça que vous allez être gouverné demain. Et c'est aussi comme ça que vous allez être soigné. Et c'est aussi comme ça que vous votez. Vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. La pratique des nudges tend à s'imposer partout. Et c'est un bel exemple de relation de pouvoir inspirée par les stratégies de manipulation sociale de l'économie comportementale. Pour obtenir l'adhésion à une politique, on ne va plus discuter. Regardez, mettez la télé. Enfin, elle ne resterait pas trop longtemps parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Mais si vous mettez la télé, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat idéologique. Il n'y a pas de débat d'idées. Il n'y a pas d'affrontement de pensée. Non. Il faut faire des choses drôles, rapides, n'est-ce pas, qui parlent, etc. Bon. Mais il y a aussi un autre moyen d'arriver à vous faire vous comporter librement comme nous l'avons décidé au niveau du pouvoir, n'est-ce pas, eh bien, c'est le nudge. Le nudge, c'est le coup de pouce comparable au coup de trompe que la maman éléphant donne à l'éléphanto pour le remettre sur le droit chemin. L'exemple parfait du nudge, comme ça on va aller très vite, c'est la grosse mouche noire dessinée près du siphon dans les urinoirs qui réduit de près de 80% les éclaboussures d'urine. Si vous marquez « Soyez sympa avec le personnel, ne pissez pas à côté », on n'a rien à faire, ça ne change pas le volume des éclaboussures. Si vous marquez « Ça n'est pas hygiénique, vous risquez d'attraper des maladies », c'est pareil, ça ne réduit pas, n'est-ce pas, ça réduit pas les éclaboussures. Mais vous mettez une mouche noire au fond de l'urinoir et à ce moment-là, les hommes, bien sûr, pissent dessus et vous réduisez de 80% les éclaboussures. Alors, bien sûr, ça, c'est très amusant. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le nudge a été employé pour le Brexit. Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que le nudge a été employé au moment des élections, par exemple l'élection d'Obama, par exemple l'élection de Trump, par exemple l'élection de Macron, par exemple le mouvement 5 étoiles, etc. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, on va capter, grâce aux nouvelles technologies, on va capter, si vous voulez, les thèmes et les phrases et les mots qui vont toucher les individus et on va, en gros, leur envoyer les informations qui correspondent à ce qu'ils attendent et de manière contradictoire. C'est-à-dire que selon le segment de population, on va dire, par exemple, pour le Brexit, l'Europe, c'est trop de normes. Et puis, à d'autres moments, on va dire, l'Europe, n'est-ce pas, c'est pas assez de protection sociale, pas assez de normes. Et on va choisir ceux auxquels on envoie tel ou tel message. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est les fake news, c'est aujourd'hui le paradigme originaire de l'information. Ça va ? C'est clair ? Donc, ce qui est important, c'est l'effet produit et pas la vérité de l'énoncé. Alors, ça, le nudge, c'est important parce que, en gros, on va piéger les individus d'un dispositif de gouvernement des conduites qui déterminent librement leur comportement tout en agissant sur le milieu. Et donc, en gros, pas un jeu d'obstacles, pas un jeu d'empêchement, on va les amener à choisir librement ce qu'on a déjà décidé pour eux. Alors, vous avez quelqu'un qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est un type génial, je trouve, c'est Dan Poli, qui a fait un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos » et qui montre tout à fait, si vous voulez, cette manière de fonctionner aujourd'hui en politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça va, j'ai 8 minutes pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Non. Alors, d'abord, il faut identifier l'adversaire. L'adversaire, c'est évident, c'est la lecture numérique du monde, c'est la langue informatique. Pas en elle-même. Il ne faut pas renoncer à ça. C'est extrêmement important. Il ne faut pas, par exemple, cracher sur les chiffres, les nombres, etc. Il ne faut pas oublier que, si vous voulez, la démocratie grecque, elle a été tout à fait co-occurrentielle avec, bien sûr, une rationalité mathématique du monde. C'est pas ça. Oui, on peut relire Jean-Pierre Vernant, etc. Bon, c'est pas ça. Mais il faut, en gros, réhabiliter ce qui n'est pas présent dans un discours d'ordre qui érige simplement la figure de l'homme computationnel. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir réhabiliter la parole, il faut pouvoir réhabiliter le récit, il faut pouvoir réhabiliter ce qui est de l'ordre du narratif. C'est ça qui est très important. Et pourquoi ? Parce que c'est aussi comme ça que nous vivons. Et je pense à la dernière conférence d'Edouard Glissant, qui s'appelait, avant sa mort, qui s'appelait « Rien n'est vrai avec un grand V, tout est vivant ». Donc il ne s'agit pas, si vous voulez, de choisir des savoirs les uns contre les autres, des pratiques les unes contre les autres. Il ne s'agit pas de dire la lecture numérique c'est mauvais, ce n'est pas ça. Il s'agit d'opérer une biodiversité des savoirs, une biodiversité des pratiques. Et là je reviens à la biodiversité du vivant, l'extinction des espèces, si vous voulez la raréfaction d'un certain nombre d'espèces, eh bien vous avez l'équivalent en termes de manière de donner le monde ontologiquement, de le produire, de l'approcher. Ça va ? Je suis clair ? Donc, si vous voulez, on va laisser tomber encore ce que j'avais à regarder sur la psychiatrie, mais regardez simplement aujourd'hui, n'est-ce pas, la prolification d'acronymes pour parler des souffrances psychiques. TOC, TOP, TDA, etc. Enfin, vous imaginez le code technico-administratif. Mais ce n'est pas simplement un truc pratique, c'est une manière de penser. Combien on est très loin, n'est-ce pas, ce codage est très loin, il transforme le psy en ordinateur, c'est très loin de ce que Freud disait, parce que lui, il s'inquiétait déjà, que ses observations cliniques puissent se lire comme des romans. Il disait, je m'étonne moi-même de constater que mes observations de malades se lisent comme des romans et qu'elles ne portent, pour ainsi dire, pas ce cachet sérieux propre aux écrits des savants. Eh bien, justement, bien sûr, c'est pas inutile ce qui est codage, c'est pas inutile ce qui est gestion, mais il ne faut pas que la rationalité logistique prennent, si vous voulez, toute la place, parce que la raison n'est pas que la rationalité logistique. La raison n'est pas que la rationalité que j'appelle pratico-formelle à partir de Max Weber, c'est-à-dire la pensée des affaires et la pensée du droit. C'est conforme ou c'est pas conforme. Il faut aussi qu'il y ait de la pensée mythique. Il faut aussi qu'il y ait de l'imagination. Nous avons besoin d'habitus utopiques. L'utopie, c'est pas, si vous voulez, un récit de fiction du monde à venir, ou bien de ces lendemains merveilleux qui chantent. L'utopie, c'est la possibilité de faire surgir de l'inédit en toute occasion. Et là-dessus, par exemple, les surréalistes ou les situationnistes nous ont beaucoup apporté. Alors, comme il ne me reste plus que 6 minutes, c'est ça ? N'est-ce pas ? Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez, la dévalorisation des savoirs non narratifs nous coûte très cher. C'est ça que je suis en train de vous dire. Que ce soit en psychologie, en psychanalyse, en psychiatrie, en sociologie, en histoire, etc., il faut revaloriser le narratif. C'est ça qui est très important. Souvenez-vous de l'alerte de François Lyotard, Jean-François Lyotard, qui écrivait « Il est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances autant que l'a fait le développement des moyens de circulation des hommes d'abord, les transports, des sons et des images ensuite, les médias. Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n'est pas ainsi traduisible sera délaissé et que l'orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine. » Là est le danger majeur. C'est-à-dire que tout ce que, si vous voulez, le savoir, c'est pas que la science, hein, c'est aussi notre manière sensible de partager le monde. Eh bien, en gros, refuser une place, n'est-ce pas, au savoir que l'on peut produire, n'est-ce pas, notre partage sensible, parce qu'il n'est pas traduisible en machine, c'est cela qui aujourd'hui, pour moi, mutile de manière anthropologique les humains, et c'est cela qui affecte les catastrophes écologiques et épidémiques que nous avons vécues. Je ne vous parlerai pas de l'épidémie, même si j'ai passé mon avant-dernier bouquin là-dessus, parce que je serai très long et je sais que ma jeunesse ne le supporterait pas. Non. Mais il faut bien voir que le Covid, c'est l'exemple même d'une épidémie qui surgit, n'est-ce pas, d'une catastrophe anthropocène. Alors, donc si vous voulez, j'ai rien contre les sciences, surtout que ma formation au départ est plutôt de ce côté-là. J'ai rien contre les mathématiques que j'adore, etc. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'en gros, si vous voulez, les pouvoirs, de la même manière bien sûr que l'économie, que les marchands, se sont servis d'une certaine manière des chiffres pour piloter nos vies. Et c'est ça qu'il faut empêcher. Il y a d'autres manières. Et pour qu'il y ait d'autres manières, il faut justement qu'il y ait une reconnaissance sociale, une reconnaissance psychique de l'importance de ce qui ne se transforme pas en langage de machine. Parce que le robot, c'est le travailleur idéal du capitaliste. Ce n'est pas compliqué. Donc, en gros, si on arrive à transformer les humains en robots, eh ben, en gros, c'est bien sûr un gain capitalistique considérable. Donc, ce que je voudrais essayer de vous montrer, je vais quand même vous lire, je prends une minute de plus, 30 secondes de plus, allez. Combien nous manque la poésie d'un Brecht qui raillait déjà d'un poème satirique ces 700 intellectuels qui adorent un réservoir à mazout. C'est-à-dire, à l'époque, c'était pour le progrès. Et la supplique se termine. Dieu est revenu sous la forme d'un réservoir à mazout. Exauce-nous donc au nom de l'électrification, du progrès de Ford et des statistiques. Alors, vous changez juste les mots. Vous marquez à la place informatique, vous marquez Alton-Mesk, etc. Et vous avez ce qui se produit aujourd'hui et qui s'est produit, encore une fois, depuis un certain temps, à savoir justement cette haine de ce qui n'est pas traduisible en langage de machine, cette haine de l'imagination. Et je dirais que les actes de résistance sont de ce côté-là. Ça n'est pas de s'adapter à des normes, ça n'est pas de s'adapter à un pilotage par les chiffres. Enfin, vous savez quand même que tous ces chiffres qu'on nous donne pour notre travail, hein, il faut avoir tant de pourcentage de réussite au baccalauréat, il faut avoir tant de thèses soutenues, tâches d'habilitation soutenues, tant d'articles publiés dans des revues à fort impact. C'est pipeau, c'est bidon. C'est, si vous voulez, des trucs, c'est des sortes de fouets numériques pour nous faire avancer, mais ça ne tient pas à la route. Les financiers qui sont des gens sérieux connaissent ce qu'on appelle la loi de Goodhart, appelée des fois la loi de Lucas, qui dit que lorsque une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. Elle cesse d'être une bonne mesure. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on veut, par exemple, évaluer la force des services hospitaliers pour lutter contre les maladies nosocomiales, les maladies attrapées à l'hôpital, on va faire une photographie et on va voir, par exemple, qu'effectivement, les services qui consomment le maximum de solutions hydroalcooliques sont les services qui ont le plus de soucis pour les maladies nosocomiales. Mais si pour les habilitations, pour les certifications, vous dites que, en gros, le nombre de barils de solutions hydroalcooliques détermine la performance des services à lutter contre les maladies nosocomiales, ça devient complètement idiot, parce que vous pouvez en faire n'importe quoi. Vous pouvez les jeter aux chiottes, vous pouvez amener les gels hydroalcooliques chez vous, etc., pour simplement répondre au score qui a été établi. Or, c'est ce qui se produit aujourd'hui quand on recrute des chercheurs. C'est ce qui se produit aujourd'hui, si vous voulez, quand on forme des étudiants, quand on forme des élèves. C'est ça qu'il faut avoir. Il y avait un démographe, n'est-ce pas, qui était pas du tout de ma paroisse, c'était pas du tout un homme de gauche, n'est-ce pas, qui s'appelle Alfred Sauvy, qui disait « Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer ce qu'on veut leur faire dire. » Et donc, tout ce que je peux dire pour essayer de terminer dans les 3 minutes qui me restent, c'est ça, Marina, c'est qu'il faut, en finir avec les fabriques de servitude en cherchant par tous les moyens à créer. L'humain, créer pour lui, c'est résister. C'est résister au récit d'ordre qu'on lui donne. Alors, il en faut des récits d'ordre, c'est pas un problème, mais il faut pouvoir les transgresser. Et vous m'avez très gentiment cité par rapport à la question du sacrilège. Alors, je vous donne une citation de Deleuze. Il dit « L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. » C'est la raison pour laquelle l'acte de création, au premier rang duquel le récit, le conte, est au centre des moyens de résistance sociale aux fabriques de servitude. C'est ce point sur lequel j'aimerais insister. Et dans ce que Achille Mbembe, que je cite beaucoup, appelle le risque du devenir nègre du monde, il dit qu'en gros, ce n'est plus le problème des anciens esclaves, des Africains, etc. Le devenir nègre du monde, c'est tout citoyen du monde risque en quelque sorte de devenir justement ce qu'il appelle un nègre. Donc, si vous voulez, n'est-ce pas, eh bien, pour lutter contre cela, il faut justement essayer de se souvenir comment les esclaves ont pu se restituer l'humanité dont ils avaient été dépossédés par la langue utilitaire des négriers. Eh bien, ils l'ont fait grâce justement, n'est-ce pas, au chant, grâce aux danses, grâce aux contes, etc. Et Patrick Chamboiseau, que vous avez invité et que j'aime beaucoup, qui est un ami, Patrick Chamboiseau écrit à propos justement de ces conteurs créoles, à propos justement de ces esclaves qui, au moment de la veillée, sous l'œil même des maîtres, se restituaient l'humanité qu'on leur avait confisquée. Eh bien, si vous voulez, c'est un point qui est extrêmement important, il dit que là, il y a un marronnage. Vous savez que l'esclave marron, c'est celui qui fuyait la plantation et puis qui créait des espèces de ZAD, et s'ils étaient attrapés, ils étaient mutilés, exterminés, etc. Mais Patrick, moi, je dis qu'il y a une autre manière de marronner. Le marronnage, c'est aussi justement par la danse, par le chant, par le conte, par la parole. C'est cela qui nous rend humains. Et il écrit « Ces esclaves étaient mieux que rebelles, des guerriers. Ils se réhumanisaient en eux-mêmes, pour eux-mêmes, par les créativités du rythme, de la danse, du chant et de la parole. » Les résistances qui se fondent sur la création, la créativité, sont mieux déterminantes. La créativité est toujours une réhumanisation. Elle prend socle sur l'instinct d'exaltation de l'existence dont un être humain peut disposer en lui. Donc, tout acte de création est un acte de résistance. C'est un acte, si vous voulez, de marronnage. C'est cela que je voudrais essayer de vous montrer. Et comme je n'ai pas le temps, on en parlera dans le débat. Mais vous voyez, on a écrit avec un ami qui est joueur de jazz en France assez célèbre, Bernard Lubat, et un journaliste, Charles Sylvestre, un livre qui s'appelle « Le manifeste des ouvriers ». Je pense que chaque fois que dans notre métier de médecin, d'infirmier, de psy, de professeur, d'éducateur, de travailleur social, de journaliste, de politique, etc., nous, marronnons et nous nous efforçons de restituer une dimension artisanale et artistique du métier, nous réhumanisons et en nous réhumanisant, nous partageons le sensible avec les autres et nous favorisons leur propre réhumanisation. Donc si vous voulez, c'est cela que je voudrais essayer de vous dire et là, vraiment, je termine, promis, Marie-Hélène. Dans l'acceptation du vivant, du complexe et du multiple, alors il y a tout un truc dans mon bouquin qui montre justement tous les intérêts que nous aurions à lire, par exemple, les physiciens quantiques. Pas pour utiliser de manière fumeuse la physique quantique, c'est pas ça. Non, il faut lire leurs écrits théoriques. Et on s'apercevra que justement, tout ce qui nous paraît évident avec justement le découpage quantitatif du temps, etc., avec, si vous voulez, les assignations en résidence dans l'espace, tout ça, c'est bidon. C'est-à-dire pour la science dure, pour la science vraie, tout ça, ce sont des mirages qui, à un moment donné, nous ont été très utiles, mais qui sont totalement dépassés. Donc, si vous voulez, en gros, dans l'acceptation du vivant, du complexe et du multiple, dont la créolisation est une des figures, notre civilisation doit se métamorphoser. Elle doit résister parce que pour l'humain, c'est justement la création qui est, pourrait-on dire, la signature de l'espèce. Et ça n'est pas la concurrence, ça n'est pas la force. Je n'ai pas eu le temps de vous parler de Simone Veil, mais j'aurais pu vous parler de Simone Veil, n'est-ce pas ? C'est pas de ce côté-là, c'est au contraire du côté de la vulnérabilité. N'oubliez pas le discours, justement, de la dignité de l'homme depuis la Mirandole. L'espèce humaine, elle n'est pas faite pour l'adaptation. Lorsqu'elle naît, elle n'est pas adaptée. Elle a besoin de fréquenter ses semblables. Elle a besoin d'autres secourables qui prennent en charge sa vulnérabilité. Et par cette culture de la vulnérabilité, il y a une plasticité humaine qui lui donne la signature de son espèce. Et donc, je crois que ça, nous l'oublions. C'est avec la vulnérabilité que nous aimons. C'est avec la vulnérabilité que nous avons des amis. C'est avec la vulnérabilité que nous créons. C'est avec la vulnérabilité que nous pouvons résister. Et pour terminer, je vous invite à lire le petit livre de Patrick Chamboiseau qui s'appelle « Les neuf consciences du mal fini ». Karim, vous l'avez ? Non. Eh bien, le roman initiatique, justement, pourrait nous conduire à nous dépouiller progressivement des ambitions du pouvoir et de la force pour aller vers la puissance d'une poétique du vivant, exaltant chacun de vos sens en osmose avec les merveilles et les présences indéchiffrables des couleurs et des parfums de la vie. Bon, ça, c'est moi, c'est pas Patrick. Patrick lui raconte l'histoire d'un prédateur, un oiseau, pas prédateur, le mal fini, et qui finalement a un pouvoir considérable. Et il il combat les autres oiseaux, il bouffe les oiseaux qui passent, etc. Et puis, ce rapace prédateur, il fait une rencontre. Une rencontre qui produit une énigme et qui restitue ce qu'il a né du mystère du vivant. Il rencontre un colibri. Un colibri qui va lui montrer par la manière même dont il se conduit avec le vivant, avec ses semblables, eh bien, il devient l'élève du colibri. Et je termine juste par cette phrase de Patrick Chamoiseau. Le roman montre, ça c'est moi qui le dis, mais le roman montre, ce que dit Chamoiseau, je le cite, à quel point les vies se tiennent, combien nul n'est central, plus digne, plus importante que les autres. Elles portent les mêmes couleurs. Elles se lient, se relient, se rallient, se relaient et se relatent avec les mêmes couleurs. Et je compris combien à la base de la vie, il y avait encore une infinité de possibles en devenir et de devenir possible. Merci.
Merci pour ce magnifique exposé. Vous entendre, c'est un peu comme vous lire. Ça ouvre plein de fenêtres, de nouvelles perspectives. C'est vraiment délicieux. Mais effectivement, on a besoin de temps. D'ailleurs, cette question du temps est très importante. C'est pour ça que vous restez plusieurs jours. Donc, on est content pour encore poursuivre demain. Et même mercredi, je ne l'ai pas dit, à Neuchâtel. Et là, on a quand même un peu de temps pour échanger. Et je me tourne vers le public pour une première réaction. Vais-moi parce que moi, je ne sais plus, comme j'ai lu plusieurs choses, et écouté aussi plusieurs choses. Il y avait cette chose très belle, comme vous parliez du conte, de Chamoiseau qui parlait de cet art de conter. Je vous ai entendu dire que c'est Walter Benjamin. Non. Donc, la seconde, qu'on a perdu l'art parce qu'on... D'ailleurs, c'était très beau votre exposé dans le cadre de Big Bands. On est quand même 3-2, donc deux théâtres avec cette importance du vivant, du sensible, des expériences communes et tout ça. Vous avez dit à un moment qu'on a perdu l'art de raconter, de conter notre expérience avec la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est Benjamin.
C'est aussi Walter Benjamin. C'est un texte magnifique. On en parlait avec Karim dans la voiture tout à l'heure, qui s'appelle justement la crise du narrateur ou la crise du conteur, selon les traductions, et où Benjamin nous dit nous avons. Alors, je dirais que là-dessus, pour moi, il est même plus consistant que Deleuze, ne le répétez pas, mais il est plus consistant que Deleuze, c'est-à-dire qu'en gros, c'est le premier à nous dire, nous nous réveillons tous les matins riches d'informations et pauvres de nouvelles qui nous parviennent du monde. Et il dit, l'information n'a de valeur qu'au moment où elle émerge, alors que l'histoire, elle se raconte de bouche à oreille et elle est un germe qui permet justement d'inventer, de découvrir, de partager. Et il dit à quel moment est-ce que nous avons cette crise du récit, à quel moment est-ce qu'elle s'est produite. Eh bien, il dit qu'elle s'est produite au cours de la Première Guerre mondiale, quand les soldats sont revenus du front. Ils avaient plein d'informations, on a pu écrire des millions de pages là-dessus, mais ils avaient fait face à quelque chose à quoi ils n'étaient pas préparés. C'est-à-dire toute la culture qui avait été la leur, on retrouve chez Stefan Zweig, avec justement le siècle de la sécurité, enfin son livre formidable, Le Monde Hier. En gros, le monde hier ne pouvait pas préparer des soldats de la Première Guerre mondiale aux abominations qu'ils ont vécues et aux crises même économiques qui s'en sont suivies, aux crises politiques et gouvernementales qui s'en sont suivies. Tout ça. Et en gros, ça a fonctionné comme un traumatisme. Et ils n'étaient pas pourvus d'une culture qui permet de penser la violence de ce qui arrive. C'est pas la violence. Le problème du traumatisme, c'est pas la violence du choc. C'est l'état d'impréparation face à un choc.
Merci. Est-ce qu'une autre question, enfin une première question, réaction
Ah ouais. Merci beaucoup pour votre exposé. Je ne vais pas vous poser une colle, mais je suis quand même surpris que dans toutes les citations que vous faites, mis à part Hannah Arendt et un peu Marie-Léa, il n'y ait pas de femme, en fait. Et ma question, et je suis heureux d'être un homme pour la poser, est-ce que dans le marronnage que vous espérez à la fin de votre exposé, est-ce qu'il n'y a pas une part du féminin, de l'anima, qui pourra éventuellement permettre une évolution un peu moins liée à la technologie et beaucoup plus favorable à la créativité, à l'imagination, au rêve, à la poésie?
Alors effectivement, je ne vous ai pas parlé de Simone Veil, j'aurais pu vous parler longuement de Simone Veil, et notamment de son magnifique livre sur la force, et la critique de l'éloge de la force. J'aurais peut-être pu vous parler d'autres femmes. C'est possible, ça ne m'est pas venu à l'esprit. Moi, je fais des rencontres. Et quand je fais des rencontres, si vous voulez, bah, je cite les gens que j'ai rencontrés et qui m'ont, à un moment donné, marqué. Bon. Par contre, sans vous chercher des noises, n'est-ce pas ? Par contre, je ne vois pas pourquoi vous donneriez aux femmes le monopole du féminin. Parce que fondamentalement, il y a une bisexualité. Et que le meilleur de l'homme, homme ou femme, c'est quand même le féminin. Parce qu'effectivement, c'est du côté de la vulnérabilité, c'est du côté, si vous voulez, de l'accueil, d'une certaine manière, et non pas de la maîtrise. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sauf sur ce point, je ne pense pas que ça puisse être un monopole d'un genre. Je pense que ça se trouve, si vous voulez, chez tous les êtres humains.
C'est bien pour ça que j'ai utilisé le mot anima aussi.
Oui, mais alors j'ai moins la pratique de Jung que de Freud ou de Winnicott, donc, mais pourquoi pas, je suis d'accord, oui.
Autre question, réaction ?
Karim, il n'a pas de question.
Vous avez évoqué finalement une sorte de crise du récit et une sorte de refuge finalement dans les chiffres, hein, indirectement au travers de différentes anecdotes, différentes citations. Est-ce que finalement aussi tous les problèmes écologiques que vous passez derrière une crise de l'humain, est-ce que tout ça ne se rejoint pas derrière une crise de sens, finalement, où on se réfugie derrière les chiffres ?
Oui, mais c'est très vrai. C'est parce que, enfin, on peut le dire autrement, c'est que le chiffre émerge avantageusement pour la psyché comme pour le social face à une espèce d'annihilation du sens. Moi, j'avais été frappé. Bon, ça n'a rien à voir, ça remonte à près de 35 ans, quand j'avais une passion pour Léonard de Vinci. Si vous voulez, j'avais relu ses carnets et j'avais été très frappé qu'à la mort de Caterina, sa mère, tout ce qu'il marque dans ses carnets, c'est les chiffres de ce que ça a coûté, etc. Et ça me paraissait intéressant psychologiquement parce que, en gros, c'est, si vous voulez, face à une absence, une perte, un effondrement, si on ne peut pas mettre des mots, si on ne peut pas faire un travail de deuil, je dirais, pour aller vite, qui permet justement, ce qu'on dépose, c'est le chiffre. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Mais c'est, enfin, le sens est quand même consubstantiel pour moi à la parole. Si vous voulez, j'aime beaucoup Hannah Arendt, pas surtout, mais en particulier quand elle rappelle que pour Aristote, la pensée est un dialogue. Et c'est intéressant parce que ce que nous dit Aristote, par exemple, il nous dit que ma pensée, qu'est-ce que c'est ? C'est la poursuite du dialogue que j'ai avec l'ami. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un ami. Parce qu'avec l'ami, je vais poursuivre ma pensée. Que donc l'un est consubstantiel à l'autre. Et c'est là où c'est intéressant de voir avec les hikikomori, otakisme, etc., enfin toutes les pathologies modernes, comment, si vous voulez, l'individualisme est quelque part ce qui vient faire obstacle à la possibilité de penser.
Il faut que je sois en rapport avec l'autre pour pouvoir penser. Voyez. Et c'est intéressant aussi qu'Aristote dit, par exemple, comment se construisent les cités. Il dit la communauté des hommes libres. Bon. Les cités se construisent, dit-il, parce que, pour un truc qui est très facile, très simple, très bébête, c'est parce que finalement, ensemble, ils peuvent plus facilement répondre à leurs besoins. Mais il ajoute, mais une cité, c'est pas seulement ça. Une cité, c'est pas seulement ça. Parce que si les hommes se rassemblent, c'est pas seulement parce que finalement ils sont plus efficaces ensemble, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'être reconnus les uns par les autres. Et c'est là où il fait surgir le concept de filia, d'amitié. Et ça, c'est aussi un point très important. C'est-à-dire que si vous voulez, pourquoi je m'en prends tellement, vous voyez, aux logiques d'Audimat, etc., tout ce que j'ai connu hein, dans les expertises diverses et variées, c'est parce que d'une certaine façon, on se passe du temps pour parler. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais président d'une commission, et j'apporte un dossier, et je raconte ce qu'il y a dans la thèse. Et on m'arrête, on me dit « Ah, mais tu n'as pas le droit, là. Tu n'as pas le droit. » Ben non, parce que tu vas nous raconter, on va parler. Dis-nous qui il y avait dans le jury, donne-nous les éléments formels, et donne-nous l'impact facteur des revues. Bon, donc en gros, si vous voulez, à ce moment-là, moi, je trouvais que ce n'était plus possible, quoi. Vous voyez, comme quand j'ai été expert, la dernière fois où on m'a envoyé un dossier d'une université expertisée, je l'ai renvoyé en disant à la directrice de l'Agence nationale de la recherche que je ne ferai plus d'expertise. Parce qu'on avait la liste des revues qui étaient qualifiantes. Et donc, en gros, on était transformé en technicien pour vérifier et calculer, vous voyez, si effectivement c'était conforme. C'est ça, quand Max Weber parle de la rationalité formelle, la pensée du droit, elle est là. C'est une pensée de la conformité. Alors, puisque vous parlez de femmes, Simone Weil dit justement qu'il y a une différence fondamentale entre le droit et la justice. Elle dit dans le droit, il y a toujours une part commerciale, il y a toujours une part de négociation qu'il n'y a pas dans l'exigence éthique de justice.
Oui, merci infiniment pour votre incroyable conférence. Moi, il y a un mot qui revient depuis le début de la conférence, c'est la question du désir, comme si on était aussi dans une crise de désir. On est dans une crise du langage, une crise de la raison. Et moi, c'est cette crise du désir, comme si l'alignation passait par la disparition du désir, par l'annihilation du désir. Il me semble que c'est chez Arendt.
Oui, mais justement, le propre du désir, si vous voulez, c'est de ne pas être saturé. C'est-à-dire que le désir, on peut en avoir une espèce d'approche presque joviale. Hein, j'ai le désir, etc. C'est pas ça, le désir. Le désir, étymologiquement, vient d'un mot latin que j'ai oublié, Marie-Joseph va me le rappeler, qui signifie deuil. Donc, c'est du côté de la perte. Et la capacité de désirer, c'est la capacité de traverser cette perte pour trouver ce qui peut la transcender dans la création. Et pour être très concret, par exemple, voyez, lorsqu'on termine un bouquin, l'épreuve terrible, André Green m'avait dit la même chose, l'épreuve terrible, c'est quand on reçoit les épreuves. Quand on reçoit les épreuves et quand on se relit. Et là, on se dit, il manque des choses. Et du coup, il y a du désir. Mais si on était parfaitement satisfait de son dernier bouquin, j'aime bien mon dernier, hein, mais j'en suis pas parfaitement satisfait. Si vous voulez... Alors, on ne pourrait plus écrire. C'est ça qui est important. Donc, le désir, il est de la capacité, justement, de traverser, si vous voulez, une perte pour trouver. C'est ce qui court. Enfin, le désir, c'est ce qui court pour le désir, d'une certaine manière. Pour trouver. C'est un mouvement. C'est pas. Et dans nos sociétés, c'est comme si c'était saturé. Vous voyez, comme s'il y avait une saturation. Je crois qu'on a très peur du désir. Mais c'est aussi ce qui nous fait adhérer à ces dispositifs à la con. C'est qu'on a vraiment très peur de désirer.
Merci, j'avais encore deux questions. On va les prendre. Profite de votre présence et vous n'aimez pas ces découpages de temps un peu... ces découpages de temps un peu stricts. Donc je vais prendre ces deux questions, puis après on va s'arrêter si ça vous va.
Comme psychologue, c'est fascinant d'avoir un maître comme vous qui n'accepte pas de se cantonner à la psychologie, dans le fond, qui nous proposait une lecture sociale, politique. Et probablement que c'est un acte de résistance que vous faites en faisant ça. J'aurais envie de vous demander, mais d'où ça vous vient psychanalytiquement? Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous autorise? Qu'est-ce qui vous légitime à faire cet acte tellement important pour nous? Mais j'avais peut-être une autre question dans la suite de ce que vous venez de dire maintenant sur le... dans le fond, sur ce que ça nous coûte d'être en contact avec le désir et sur votre finale, sur la vulnérabilité, et dans le fond, qui est une très mauvaise nouvelle. Si je comprends bien, on ne va pas pouvoir s'en passer de la vulnérabilité, malgré toute notre maîtrise technique. Et vous montrez bien comment, la force de séduction de la technique, c'est nous promettre qu'on va pouvoir s'en passer. Et donc, dans le fond, pourquoi est-ce que ça ne va pas marcher, d'après vous, que toute cette extraordinaire maîtrise qu'on a construite au fil du temps, ça ne va pas nous permettre de nous passer de nous sentir dans la détresse parfois, d'avoir cet appel vers l'autre dont vous parliez aussi?
Je réagis maintenant ?
Oui, vous pouvez réagir maintenant, mais en sachant qu'on a une autre question. Puis qu'on a pas...
Donc, vous voulez que je sois bref, c'est ça, avant?
Dans la mesure du possible, mais sentez-vous libre.
La première chose, c'est que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, si vous voulez, je ne sais pas si on pourra s'en passer, parce qu'il peut y avoir très bien un risque de disparition d'une forme d'humanité. L'humanité n'a pas toujours existé, elle peut très bien se transformer et on peut perdre peut-être ce qui a pu constituer à un moment donné ce que Arendt appelle l'humanisation de l'homme, pour aller vite. Donc perdre par exemple de l'empathie. Je sais, il est possible que la technique, mais encore une fois, finisse par gagner, mais c'est pas... en vous écoutant, ça m'évoquait une journée à laquelle j'avais participé, pas très loin d'ici, à Bienne, aux Journées internationales de philosophie, où il y avait, et c'est ce qui m'avait ému d'ailleurs, mon ami Bernard Maris, qui a été, comme vous savez, assassiné à Charlie Hebdo. Et justement, on en parlait ensemble, cette histoire de la technique, il me dit, tu vois, la technique, au départ, c'est formidable. Parce que ça permet de maîtriser la disette, les aléas, etc. Donc, il me disait, mais à un moment donné, ça se transforme en autre chose. Et si vous voulez, je crois que je vous pose un peu à Bernard. Hein, c'est pour ça que je vous dis, moi, je ne peux pas penser sans le rapport avec les autres. Hein. Bon, j'ai depuis 30 ans un rapport intensif avec Marie-Josée en matière de pensée. Et ce qui me permet de répondre à votre dernière question, c'est qu'elle m'a appris, elle venant du champ biologique, médical mais biologique surtout, scientifique, elle a fait une thèse de non-science, etc., en plus de sa médecine. Ce qu'elle m'a appris, si vous voulez, c'est aussi à interroger ce que ne font pas souvent les psychanalystes, les psychologues et les psychiatres, c'est les conditions de validité de ce qu'ils énoncent. Et donc, nous avons beaucoup travaillé, je réponds un peu à votre question, nous avons beaucoup travaillé l'épistémologie pendant quelques années, 10 ans, 6 ans, je ne sais pas, peu importe. Et puis, à un moment donné, bon, ça nous a beaucoup apporté, hein, on a fait un certain nombre d'articles là-dessus, de travaux, et puis ça nous a apporté. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu qu'on se heurtait à autre chose. Et cette autre chose, c'est la dimension politique et sociale des métiers. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, quelque chose comme la psychanalyse n'était pas accepté ou rejeté en fonction de la pertinence de son savoir ou en fonction de l'efficacité de ses pratiques. il y a toujours plein de trous, non, plein d'échecs dans la psychanalyse. C'est une évidence. Oui, bon. Mais ce n'est pas pour ça qu'à un moment donné, elle va disparaître de la scène ou qu'au contraire, elle va être appelée et être utilisée. C'est en fonction de ce à quoi elle sert pour le social. Vous voyez ? Alors, ça ne veut pas dire, pour prendre juste un exemple, et après je laisse la deuxième question, sinon Marie-Léane ne m'invitera plus, mais si vous voulez, regardez par exemple quelque chose d'assez extraordinaire en France qui a pu se produire. Je ne peux parler que de ce que je connais bien, bien sûr. C'est qu'au moment où la psychanalyse elle a été éradiquée des domaines de la psychiatrie dans la fin des années 90, au début des années 2000. On n'avait plus un seul professeur de psychiatrie qui a une formation analytique en France, par exemple, ni de pédopsychiatrie. Bon. La psychologie, elle a eu pas mal de difficultés à se maintenir dans le référentiel psychanalytique. Elle y parvient tant bien que mal, mais de moins en moins bien au niveau des universités. D'accord ? Vous avez un pouvoir politique, vous avez parlé de Sarkozy, mais avec Macron et notamment le ministre de la Santé de l'époque, Véran, qui va instituer un parcours psy de 8 séances pour un psychologue pour des troubles anxieux ou dépressifs légers ou modérés. Déjà, c'est complètement idiot. Aucun épistémologue sérieux pourra vous dire ce que c'est un trouble anxio-dépressif léger ou modéré. Ça ne veut rien dire. Parce que vous pouvez avoir un patient qui arrive, n'est-ce pas ? Il est très agité comme moi, bon, et c'est un névrosé banal comme moi. Puis vous pouvez avoir quelqu'un de beaucoup plus doux, tendre, courtois, inexistant et autres qui arrive dans le cabinet. Il vient parce qu'ils ne sont pas très bien vivre, mais il n'a pas beaucoup de troubles, et il se révèle psychotique, il se révèle fou. Donc, si vous voulez parler, comme l'a fait Véran dans ses fameux arrêtés, de troubles légers ou dépressifs, anxieux ou dépressifs légers, c'est idiot. Enfin, passons. Bon. Après, c'est, en gros, c'est, sous la surveillance, c'est orienté par un médecin généraliste. Comme si les médecins généralistes en France avaient le temps de travailler à la psychopathologie. Comme s'il y en avait suffisamment, alors qu'on est dans une désertification médicale catastrophique. Bref. Pour 8 séances. Où est-ce que vous avez vu quelqu'un de guéri en 8 séances ? Bon. Alors, ça, c'est pas compliqué. Pourquoi il y a ça ? C'est parce qu'en gros, étant donné qu'il faut des mois pour avoir un rendez-vous, je ne sais pas ici, mais avec un médecin ou avec un psy, etc., si un type téléphone parce qu'il veut se suicider, qu'il appelle, vous lui dites « revenez dans 6 mois », ça ne fait pas très sérieux. Donc, on a très peur d'une colère citoyenne parce que, justement, il y a, si vous voulez, des files d'attente insupportables. Donc, on va les dégonfler, comme on le fait avec la médecine générale, et qui, finalement, sont les urgences qui épongent la désertification médicale. Mais c'est le système du tourniquet. Puisqu'ils arrivent aux urgences, ils en sortent et ils reviennent. Vous voyez ? Donc, ceci pour vous dire. Vous avez, à ce moment-là, un pouvoir politique, pas plus que les précédents, mais peut-être un tout petit peu plus, va achever la référence psychanalytique, si vous voulez, à l'université pour les psychiatres et pour les psychologues. Et en même temps, se produit une série en thérapie qui recueille des millions de téléspectateurs. Et en même temps, d'ailleurs, les cabinets pour autant de psychiatres ou de psychologues ou de psychanalystes n'arrêtent pas de se désemplir. Donc vous avez quasiment là, vous voyez, un clivage entre le coup de force technocratique qui vise à éradiquer la psychanalyse et la demande sociale, vous voyez, la fonction sociale de l'écoute, comme disait d'ailleurs Jacques-Alain Miller à un moment donné, la fonction sociale de l'écoute, c'est une belle expression, il faut la lui reprendre, il faut la lui prendre, n'est-ce pas, qui est très importante. Et donc, vous voyez bien que, en quelque sorte, quand je vous dis ça, je ne peux pas ne pas m'intéresser aux conditions sociales et culturelles qui permettent l'émergence à un moment donné d'un paradigme. Et moi, je suis pour la biodiversité. Quand j'étais président et vice-président de la section du Comité national des universités, moi, je ne refusais pas les thérapies cognitives ou comportementales, je ne refusais pas la neurobiologie des comportements, etc. Parce que je trouve que c'est complètement stupide et idiot. non seulement ça m'intéressait, parce qu'au début, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les neurosciences. Bon. Mais en plus, parce qu'on ne veut pas savoir de quoi demain est fait et qu'on a déjà tellement de difficultés avec tellement peu de résultats que c'est formidable qu'on essaie des choses multiples et différentes. Je ne sais pas si je suis clair, vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, ben oui, c'est vrai. Bon, et après, j'ai aussi, je vais vous faire une confidence, ce soir je fais beaucoup de confidences, mais j'ai aussi, au départ, une passion pour l'histoire et une passion pour la littérature. Et donc, je suis un peu un écrivain raté. J'aurais préféré être romancier que psychanalyste.
Est-ce que la dernière question, c'est court ? Extrêmement. Ok, alors voilà.
De par votre pratique, j'imagine que vous êtes, on va dire, un artisan du rêve. Ce soir, c'est pas ce côté-là qu'on a entendu de vous. En tout cas, voilà. Et ma question est toute simple. Quel poète lisez-vous au quotidien ? Quel poète lisez-vous au quotidien ?
Alors, c'est drôle parce que vous me posez une question que Karim m'a posée dans la voiture tout à l'heure. Je lis beaucoup moins la poésie que les romans. Donc, je ne peux pas vous dire au quotidien quels sont les poètes que je lis, parce que j'en sais rien. Je vais tomber sur un poème de Pessoa, mais aussi bien de Baudelaire, etc. Bon. Mais c'est plutôt... Et puis, en plus, j'oublie complètement les noms des auteurs, mais je mange beaucoup d'étoiles en lisant. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'est comme ça que moi je me suis passionné pour Patrick Chavoise, je ne le connaissais pas. En plus, c'est des bouquins à 900 pages, hein, faut vraiment, hein, c'est dur. Hein. Mais j'ai eu une passion, donc j'ai lu après Les Furtifs, La Zone du Dehors, etc. Voilà. Donc, je lis beaucoup de romans. Je trouve que. Comment dire. On apprend beaucoup plus de notre vie et aussi pour fabriquer nos rêves, parce que vous avez raison, c'est vrai que ce n'est pas l'artisan tellement du rêve, encore que d'une certaine manière, je peux pas oublier en même temps mes rêves. Je veux dire que dans ce que je vous ai raconté aujourd'hui, il y a aussi tous les rêves partagés du travail fait avec Marie-Josée, il y a aussi tous les rêves de ma propre analyse, il y a aussi tous les rêves que les patients m'ont racontés. J'ai un patient qui me disait un jour, ah, si on tapissait votre cabinet, j'ai un très grand cabinet, hein, cherchant à avoir un très grand cabinet, si on tapissait votre cabinet de toutes les paroles de rêves qui ont été échangées ici. Et effectivement, je crois que en arrière-plan, il y a toujours du rêve. Et s'il n'y a pas du rêve, alors c'est grave. Je crois que c'est là, s'il n'y a pas du rêve, où la technique nous a totalement déshumanisés. Mais vous savez, je pense à un médecin, un jour, qui me raconte un rêve, et il me raconte ensuite comment, en examinant une patiente, il a trouvé, je ne sais plus quel diagnostic, en lui palpant les jambes, je ne sais plus si c'est une phlébite, ou, je ne sais plus, bon, peu importe. Et c'était dans son rêve. C'est son rêve, fait la veille, enfin, la nuit, qui a orienté son geste. Ce n'est pas le rêve qui a produit le diagnostic, mais c'est le rêve. Il avait vu cette patiente avant, et le rêve. Et je crois que c'est comme ça qu'on vit. C'est que la plupart de nos pensées et de nos actions du jour, à notre insu, sont en partie, partiellement, pas totalement, si l'on tombe dans un totalitarisme psychanalytique qui est abominable, mais en partie déterminés par nos rêves. Donc nous sommes orientés. Oui. Et donc je pense que dans ce que je vous ai raconté ce soir, dans le ton de ma voix, peut-être les moments où j'ai lu, puis les moments où je me suis autorisé à ne plus lire, peut-être les mots que j'ai employés, les lapsus que j'ai faits que vous n'avez pas entendus, moi non plus, mais bien, peut-être que ça a été produit par des rêves des nuits précédentes.
Merci. Karim, tu voulais dire... C'était une annonce pour...
Non, c'était plutôt pour faire un pont pour demain, comme ça, là, il faudra que vous buviez beaucoup d'eau avec le débit de parole que vous avez eu, mais c'est... J'avais très envie demain qu'on parle du courage parce que vous avez cité Cynthia Fleury, vous avez parlé de, de Pasolini. La liste pourrait être encore longue. Et puis, c'est vrai que notre part de vulnérabilité et de créativité, elle est indispensable. Mais c'est aussi là qu'on vient nous chercher avec ces systèmes de contrôle. Et le Covid a aussi questionné cette question du courage, de comment tout à coup on peut incarner quelque chose qui est de l'ordre d'une pensée, qui est vraiment singulière et individuelle. Et je serais content de vous entendre là-dessus demain. Merci beaucoup.
Voilà, ben rendez-vous demain soir et on vous applaudit encore. Roland, vous acceptez de signer quelques livres, hein ? Oui, alors, il reste à disposition parce qu'on va manger avec lui. Donc, pour d'autres questions, n'hésitez pas et merci encore de votre présence. Un lundi soir qui nous ravit. Bonne fin de soirée.